Bonsoir. Alors, je crains qu'il va falloir que vous m'aidiez un petit peu parce que entre ce que j'ai dit et qui n'est pas marqué, j'ai peur de me répéter. Donc, je sais que j'ai pas mal parlé de la collecte, de l'importance ecclésiologique, christologique, théologique de cette collecte, signifiant le projet de Paul de confirmer la communion entre ses églises et celles de Jérusalem, hein, les saints de Jérusalem. Voilà, alors il y a des débats, combien y a-t-il eu de collectes, hein, celle d'Antioche qui est mentionnée dans Acte 11, peut-être une évoquée par Galates 2, bon, parce qu'à la fin de Galates 2, ce qui est un peu surprenant, vous vous souvenez au moment où Paul donne la main droite à Pierre, Jacques et Jean, il dit seulement que j'aurai à cœur de me souvenir des pauvres, que j'aurai à me souvenir des pauvres, ce que j'ai eu à cœur de faire avec un aoriste passé, comme si c'était fait. Alors, bon, l'aoriste, c'est compliqué en grec, alors est-ce que ça a valeur de volonté, enfin, je vais vraiment le faire. Il y a tout un débat, mais c'est un peu surprenant. Sur ce point-là, vu qu'il y a après dans les Corinthiens, comme je l'ai mentionné aux églises de Galatie, je pense plutôt que c'est le même projet, disons que Galates 2 fait référence au même projet ancien de Paul, sur lequel il parle dans 2 Corinthiens 8, Romains 15 et 1 Corinthiens, hein, c'est-à-dire la grande collecte. Du coup, je commence un peu par l'historique, la question c'est est-ce que la collecte d'Antioche où Paul est délégué, co-délégué avec Barnabé en acte 11, vous vous souvenez de cette collecte décidée suite aux prophéties d'Agabus, comme quoi il y aurait la famine, etc. Bon. Paul n'apparaît pas particulièrement moteur, là. Il est juste délégué pour cela par l'église d'Antioche. Église d'Antioche qui n'apparaît pas dans la liste des églises participant à sa grande collecte. Alors, soyons rationnels, réfléchissons. Quelles sont les options sur la table? Soit vous dites, il y a eu deux collectes. Une organisée par Antioche, où il y a eu deux délégués, peut-être pas forcément Paul, ça c'est une théorie qui reprend du poil de la bête, peut-être Barnabé et Siméon, Barnabé et Silas, enfin deux autres, et Luc, vu qu'il ne traitera pas de la grande collecte, et vu qu'il veut montrer l'importance de ce type de collecte pour l'ecclésiologie, puisque c'est un paulinien, a mis Paul là. Donc, première hypothèse, il y a eu une collecte avec Antioche, en 49, bon. Et puis en 58, Paul, depuis plusieurs années, a son deuxième projet, ce dont il parle en Romains 15. Voilà. Donc, dans cette option, soit la collecte, la première collecte, Paul était effectivement associé, mais pas moteur, soit il n'y était pas. Ça dépend de quel moment a eu lieu la rupture de Paul avec l'église d'Antioche. Le débat sur les actes des apôtres ne contiennent pas d'allusion à la collecte fait rage. Alors je crois que j'en avais un peu parlé quand même de ça. Donc outre acte 11, le problème c'est le verset dans le discours à Félix 24 17, acte 24 17. Au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le temple. Alors, je lisais ça pour un travail de séminaire la mercredi. Franchement, si nous n'avions que les actes, on oublie Paul. Eh bien, bien malin pourrait dire qu'il y a eu une collecte faite par Paul. Parce que ce verset, tel qu'il est écrit, dans la logique des actes, il fait référence aux offrandes normales, un peu comme Corneille faisait des offrandes à la nation. C'est religieux, c'est dans le temple, des aumônes à ma nation, au peuple juif. Ça participe de ce que les critiques d'analyse littéraire appellent la caractérisation de Paul dans les actes comme de quelqu'un qui continue à être fidèle à son identité juive de manière tout à fait forte. Il y a un petit contraste, là, Luc pousse un peu le curseur, on voit un Paul... qui parle du Dieu de ses pères, etc., etc. Bon. Donc, si on n'avait que les actes, ce verset de Actes 24, 17 ne pourrait pas être employé pour parler de la collecte. Alors, beaucoup d'exégètes, depuis 150 ans, catholiques comme protestants. Fitzmyer, dans son grand commentaire sur les actes pour Encore Bible, le grand commentaire rouge là, américain de référence, lui, il dit très tranquillement, c'est clairement une allusion à la collecte. Ah bon, clairement, mais il ne peut dire ça que parce qu'il a les lettres de Paul. Et vraiment en forçant le texte des actes. Bon, au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation. C'est aussi les termes qui sont employés ici, aumône, c'est pas koinonia, charis, tous les mots qu'on a vus dans les lettres de Paul. C'est elemosune, c'est vraiment l'aumône, et qui est employé dans Luc acte, plutôt au sens de la prière, l'aumône et le jeûne, au sens de Matthieu 5, enfin des valeurs juives. Ça n'a rien de particulièrement paulinien. Du coup, si on reprend l'hypothèse, théologiquement incorrecte, que si Luc ne parle pas de la collecte, c'est qu'elle s'est mal passée, Luc a voulu trouver un moyen pour que le sens profond de ce que voulait Paul par la collecte passe quand même. Donc, pour cela, il a fait de Paul un délégué de l'église d'Antioche pour la collecte de 49, et il a insisté sur le fait que Paul a voulu aller à Jérusalem pour offrir sa vie pour le Christ, etc. Bon. Voilà, c'est une hypothèse. Parce que, disons, si Luc sait qu'il y a eu la collecte, et si Luc sait que la collecte a été bien accueillie, pourquoi ne pas en parler ? Alors vous me direz, il veut décrire un Paul poussé par l'Esprit-Saint, montant théologiquement à Jérusalem. Hein, voilà que poussé par l'Esprit, enchaîné par l'Esprit, je monte. Donc avec des motifs entre guillemets purement spirituels. Bon. Enfin, ça ne lui coûtait pas grand-chose de dire que Paul amenait des offrandes de ses communautés. Enfin, il aurait été obligé quand même de peut-être de dire un mot sur leur accueil au moment de l'arrivée là, de la rencontre avec Jacques en 21. Bon. Alors, il y a un petit débat aussi au dossier avec Actes 24, hein, le chapitre 20, verset 4. Donc, Paul, il vient d'y avoir l'émeute des orfèvres à Éphèse. Vous vous souvenez de cet épisode? Paul repart pour la Macédoine, il traverse cette contrée, il exhorta longuement les fidèles et parvint en Grèce, où il resta 3 mois. Un complot fomenté par les Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour la Syrie le décida à s'en retourner par la Macédoine. C'est un peu compliqué les mouvements. Il avait pour compagnons Sopatros, fils de Pyrrhus de Bérée, Aristarque et Secondus de Thessalonique, Gaius de Débrée, Timothée, ainsi que les Asiates Tichique et Trophime. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troie. Nous-mêmes, nous quittâmes Philippe par mer après les jours des Azimes et au bout de 5 jours, les rejoignîmes à Troie où nous passâmes 7 jours. Donc c'est le début du voyage vers Jérusalem, d'accord ? Super délégation, avec dans cette délégation des gens qui vont par pair. Les Asiates, c'est-à-dire les Asiates, c'est les Éphésiens, Tichique et Trophime. Vous avez Aristarque et Secondus de Thessalonique. Alors, d'où la vieille hypothèse, hein, déjà des pères de l'Église, que c'est qui ces gens-là ? C'est les porteurs de la collecte. Et chaque Église, hein, avec l'argent, on fait confiance, hein, mais jusqu'à un certain point. On dit, oui, bon, on va quand même mettre 2 mecs à nous qui vont vérifier que ça arrive bien au bon endroit. D'accord ? Alors, c'est assez séduisant comme idée. Toujours en utilisant massivement les lettres pour interpréter actes, on est bien d'accord. Parce que si vous n'avez que les actes, ben Paul, il est accompagné de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, c'est pas non plus la fin du monde. Bon. Alors, 7 contrats. Objection au fait que ce soit les gens de la collecte. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette liste ? En plus, si je radote et si je l'ai déjà dit, vous levez la main. Hein. Il manque les gens de Corinthe. Or, de Corinthiens 8, etc., les gens de Corinthe sont associés au projet. Alors soit, malgré les fabuleux chapitres 8 de 2 Corinthiens, ben, ils ne sont pas convaincus par Paul. Ils disent, nous, notre argent, il est bien à la banque, bien là où il est. Les gens de Jérusalem, on ne sait pas qui c'est. Pas confiance, pas important, on ne veut pas donner. Bon. Mais c'est un peu bizarre. Ce verset n'a pas à voir, et Luc ne veut pas faire d'allusion au porteur de la collecte. Voilà. Bon. Petite section historique pour vous faire comprendre. Là, on touche du doigt, si vous voulez, le problème de la conciliation entre les données des actes et les données des lettres. Qui sont, moi je suis de l'avis de ceux qui pensent, comme porteur, qui sont rarement de l'ordre de la contradiction. Il n'y a pas de contradiction nette, si vous voulez, entre les actes et les lettres de Paul. Il y a des vraies différences d'accent. Il y a des silences curieux. Bon, voilà. Mais voilà, on doit être habitué, après tout, voilà, comme je vous dis, Saint Jean, quand on arrive à l'Eucharistie, au jeudi saint, ben, il n'y a pas d'Eucharistie, donc c'est surprenant. Lavement des pieds, mais il n'y a pas de mots. Donc il y a des silences qui ne veulent pas dire qu'on ne connaît pas. Une fois de plus, comme cette affaire que Paul écrivait des lettres. Ben, si vous avez les actes des apôtres, vous ne savez pas que Paul écrit des lettres. Luc, il ne nous le dit jamais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas au courant? Ben non, en 95, Luc et tous les chrétiens savent, s'il y a une chose qu'ils savent de Paul, c'est qu'il a écrit des lettres. Peut-être que Luc veut dire, les lettres, lisez-les. Moi, je vais vous décrire autrement sa vie apostolique. Bon. Donc, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a... Là, les arguments de silence, en d'autres termes, c'est très difficile à faire parler. Il faut être très prudent. Voilà. Donc, quand vous lisez des livres sur Paul, etc., que ce soit Marie-Françoise Basselès, que ce soit Jérôme Murphy O'Connor... Deux grands savants. Bon. Parfois, il manque juste un petit peu des probablement, des sans doute glissés dans les coins. Il vaut mieux en rajouter trop que pas assez, d'un point de vue historique. Parce que y a des choses, on n'est pas sûr. Voilà. Bon. Dans l'un des articles qu'on a travaillé pour le séminaire, là, sur cette affaire de la collecte, il y a un chercheur australien qui a tiré mon attention sur un élément qui fait que, il dit, on pourrait croire que cette collecte, si vous voulez, c'est une fois quoi. Enfin, c'est one shot et c'est l'idée de, tiens, je vais leur montrer qu'on est vraiment en communion, mais à part ça, chacun chez soi. Et il dit, les mots que Paul emploie, notamment le mot koinonia, qui nous paraît à nous extrêmement chrétien. Koinonia, c'est très utilisé d'ailleurs dans le monde œcuménique, etc. Il dit que c'était un mot qui avait un sens plutôt politique. C'est ce qui doit unir les membres d'une même cité, la solidarité qui doit exister entre les membres d'une même ville. Et donc il défend l'idée que pour Paul, cette solidarité financière entre chrétiens devait être quelque chose de structurel, de permanent, pas juste... Tiens, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un tsunami aux Philippines, on envoie des sous aux Philippines, et puis bon, puis après, chacun retourne chez soi. Non, non. L'idée que les communautés chrétiennes forment entre elles un corps mystique, mais aussi un corps politique, un corps concret, qui marque qu'il est un corps concret par le fait qu'il y a une solidarité financière réelle entre ses membres. Alors attention, pas de communisme. Hein, alors le... Vous savez, l'expression dans les années 70 de Gert Dyson a fait fureur hein, en utilisant acte 2 et 4 pour parler du christianisme comme, comment ça s'appelle un proto-communisme de l'amour. Voilà, un truc comme ça. Hein, Ur communismus des Lebens ou quelque chose comme ça. Bon, donc... l'idée que, voilà, une espèce de communisme, non, il n'y a pas de communisme. On voit bien d'ailleurs avec l'affaire d'Ananie et Saphir ou l'affaire de Barnabé et Duchamp que, ou les communautés pauliniennes, il continue à y avoir dans la communauté chrétienne des riches et des pauvres, des gens aisés et des classes moyennes, mettant très bien, tout le monde ne partage pas tout le temps, c'est pas, on est bon. Mais, il y a une vraie solidarité et les personnes riches qui donnent des sommes importantes sont évidemment à statut loué. Sont loués pour cela, comme Barnabé avec son chant ou d'autres. Donc Paul voulait un peu, enfin, est aussi en phase avec cet idéal philosophique et politique grec d'une certaine isotès, d'une certaine égalité, mais qui n'est pas l'égalité au sens communiste. On dirait aujourd'hui dans notre jargon plutôt solidarité, hein, qui est une vraie solidarité dans les communautés chrétiennes. Bon, c'est qu'une petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça intéressant, hein, pour pas qu'on croie que la collecte, c'est juste... il dit, il y a eu souvent dans les commentaires depuis 100 ans, on fait de cette affaire uniquement, on en parle uniquement comme d'un truc spirituel, théologique. Oui, il y a des enjeux théologiques. Moi-même, je suis le premier à le souligner. Mais il y a aussi un enjeu tout à fait bien concret de solidarité effective. Alors, j'avais parlé, je pense, déjà du problème de Romains 16, c'est-à-dire l'existence de ce chapitre long de salutation, de son enjeu pour savoir pourquoi Paul a écrit la lettre aux Romains. Donc déjà, avant même de répondre à la question du vrai motif de la lettre, enfin du vrai motif, ça c'est un peu, enfin du motif principal. Dans les lettres que Paul écrit aux communautés qu'il a fondées, il salue très peu de monde. Dans la lettre aux Romains, communauté qu'il n'a pas fondée, il salue beaucoup de monde. Logique ou illogique? Contradictoire ou non contradictoire? Ben non, logique. Parce que si dans les communautés qu'il a fondées, il commence à saluer, ben il n'est pas rendu, puisque forcément il doit saluer tout le monde, puisqu'il connaît tout le monde. Et qu'en revanche, dans une communauté qu'il n'a pas fondée, mentionner un certain nombre de poids lourds de la communauté valide sa prétention à leur écrire comme apôtre. Parce que quand même, Romains commence par Paul, apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour Paul, bon, esclave du Messie Jésus, apôtre, choisi pour être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Bon. Mais que peut-être à Rome, il y a des gens qui nient son caractère d'apôtre, ou qui critiquent Paul sur un certain nombre de points théologiques ou pratiques, ou sur son attitude vis-à-vis de Rome, ou le fait qu'il était en prison à Éphèse, peu importe. Bon. C'est pas si évident. Nous, on aime beaucoup Paul. Paul, c'est un apôtre. Enfin, Paul, c'est qui? Voilà. Bon. Alors, ok, il a ses communautés, ses églises, mais enfin, de quel droit il écrit à Rome? Il y a des gens à Rome qui, certainement, se disent ça. Bon. Donc, saluer beaucoup de monde à Rome, c'est une manière un peu indirecte de dire, attendez, les amis, j'ai quelques titres à vous écrire, je connais du monde chez vous, ces personnes-là peuvent parler de moi, peuvent valider mon ethos, la cohérence de ma vie apostolique, que je suis bien celui que je prétends, répondre aux calomnies de 3:8, etc. Alors, est-ce que je l'ai lu une fois en entier avec vous, ligne par ligne, Romains 16? Non? Alors, on va le faire. Hein. Donc, je vous recommande Phébé, notre sœur, donc diaconone, bon, diaconesse, j'ai dans la BJ, de l'église de Saint-Cré. Comme vous savez, là, déjà, gros débat, très actuel, document de la Commission théologique internationale. Il y a eu, semble-t-il, l'existence de diaconesses, au moins jusqu'au 7e, 8e siècle, au moins en Orient, notamment pour le baptême des femmes et pour un certain nombre de rôles à l'intérieur de la communauté. Alors évidemment, vous voyez, ça, c'est ça, discerner les signes des temps. Si vous êtes un conservateur très hostile par principe à l'idée du sacerdoce, du ministère féminin, vous dites, attendez, on n'a pas de traces qu'elles ne prêchent pas, elles ne font pas les autres choses, donc c'est diacre au sens que diaconone peut dire beaucoup de choses, service, donc ne tirez pas ça vers le sens des diacres qu'il y a dans Actes. Très bien. Enfin, vous pouvez dire aussi, oui, quand même, il y a le mot diacre. Bon. Et manifestement, elle a un rôle important dans l'église de Saint-Cré. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints. Alors ça, tiens, je suis en train de réaliser en le lisant. C'est vrai que là, il emploie le mot saint, pas pour les chrétiens de Jérusalem. Puisqu'a priori, elle est de... Donc, Saint-Cré, c'est... Vous souvenez de ce que c'est, Saint-Cré? C'est le deuxième port de Corinthe. Enfin, le port côté Adriatique, hein, par rapport au port côté Égée. Et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Bon, donc, offrez-lui dans le Seigneur un accueil, c'est pas métaphorique, donc c'est elle qui porte la lettre. Donc ça fait de Phébé, à 95%, la porteuse de la lettre, ou elle accompagne le porteur de la lettre, au minimum. Aussi bien a-t-elle été une prostatisse, hein, pour nombre de chrétiens et pour moi-même. Alors là, tout un débat. C'est le mot qui est utilisé en grec pour la relation patron-client du monde gréco-latin, notamment du monde latin. La patronne. Un patron a des clients, une patronne a des clients aussi. Donc c'est quelqu'un de poids et de moyens financiers et autres. Saluez donc Priscille et Aquila, mes collaborateurs dans le Christ Jésus. Voilà, ça c'est comme j'ai dû un faible pour ces versets, comme vous savez. Pour me sauver la tête, ils ont risqué leur vie. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête, pardon. Je ne suis pas le seul à leur devoir de la gratitude. C'est le cas de toutes les églises des nations, de la gentilité, des païens. Saluez aussi l'église qui se réunit chez eux. Bon. Donc là, on arrive, saluer chez eux, donc a priori à Rome. Donc là, pour le coup, je sais que je vous ai parlé de la fameuse affaire du décret de Claude. Donc Priscille et Aquila, Ponte Euxin, business à Rome, expulsé de Rome par Claude, arrivé à Corinthe, rencontre de Paul. 49-54, retour à Rome, reprise du business familial et de la maison, qui est grande et donc qui peut accueillir une ecclésia de plusieurs dizaines de personnes chez eux. Donc ce sont des amis de Paul qui lui ont sauvé la mise, l'hypothèse la plus probable étant lors des incidents d'Éphèse, enfin lors des problèmes à Éphèse. Saluez mon cher Épénète, c'est un homme, prémisse, expression religieuse que l'Asie a offerte au Christ. Vous vous souvenez qu'en acte 15, en Romains 15, Paul se compare à un prêtre, hein, officiant du Christ auprès des nations, ministre de l'Évangile, afin que les nations deviennent une offrande, comme un parfum qui monte vers Dieu. Donc là, il parle d'Épénète un peu comme d'un sacrifice offert à Dieu. Bon, c'est une métaphore pour dire que c'est un bon chrétien. Prémisse que l'Asie a offerte au Christ, c'est aussi une manière de dire qu'il est l'un des premiers chrétiens de la province d'Asie, c'est-à-dire d'Éphèse. Donc c'est ce verset qui avait fait dire que c'était, en fait, ce chapitre, un chapitre qui était à la fin de la lettre aux Éphésiens, hein, hypothèse de certains Allemands au milieu, à la fin du 19e. Mais il faut plutôt penser Pénètre comme Priscille et Aquila, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu Paul à Éphèse, mais qui maintenant s'est transporté à Rome. Bon, Rome, c'est New York, enfin je veux dire tout le monde, ou Londres, comme point de vue d'où on se place, c'est là où il faut faire du business. Donc le gars, il est parti à... Saluez Marie, qui s'est bien fatiguée pour vous. Je crois que j'avais déjà attiré votre attention que Marie peut renvoyer soit à Myriam, et donc à un contexte juif, soit à Maria, le féminin du latin Marius, du général Marius, le vainqueur des Cimbres et des Teutons en Provence, hein, vous savez, en 107, près d'Aix-en-Provence, grand général, une grande famille romaine. Donc Maria, Myriam, voilà, ça marche. Saluez Andronicus et Junias. Alors, mes sungenes, donc mes compatriotes et mes compagnons de captivité, ce sont des apôtres éminents qui m'ont précédé dans le Christ. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ils ont été chrétiens entre 30 et 33. C'est aussi un couple, a priori, même s'il y a un gros débat là, parce que beaucoup de manuscrits ont masculinisé Junias. Pourquoi ? Ben parce que ça fait d'une femme un apôtre. Donc voilà, à partir du IIIe siècle, ça devient un peu gênant cette affaire-là. Bon. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur dans le Christ. Et mon cher Stachys. Saluez Appel, qui a fait ses preuves dans le Christ. Donc là, il y a des gens qui sont salués à chaque fois avec une expression, qui insistent toutes sur le lien personnel aussi à Paul. Saluez les membres de la maison d'Aristobule. Bon, là, deux hypothèses. Soit Aristobule est un chrétien et des chrétiens se réunissent chez lui, comme Priscille et Aquila au verset 5. Hypothèse B, on interprète à partir du verset 11 qui suit, et ce sont les chrétiens qui habitent dans la maison du très riche Aristobule qui a 800 esclaves, 400 serviteurs et beaucoup de monde. Saluez Hérodion, mon sungenes, bon, mon parent. Alors, je ne sais pas, faudrait que c'est Murphy O'Connor sans doute qui est responsable de mon parent ici. Alors peut-être que Murphy O'Connor pensait sérieusement que c'était des membres de la famille de Paul qui étaient à Rome. Enfin, sun genos, franchement, c'est d'abord bon du même genos que moi, c'est-à-dire mes compatriotes, ou mes co-religionnaires, si vous insistez sur l'aspect religieux du judaïsme, mais plutôt ici au sens compatriotes. Et plutôt juifs que tarsiotes. Parce que pourquoi souligner la commune origine tarsiote? Alors que l'argument juif et grec ensemble, il est au cœur des chapitres 9 à 11 quand même. Donc que dans cette liste, il y a un mélange assez astucieux de juifs et de païens, c'est probable. Enfin, de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne. Parce que c'est en harmonie avec ce que Paul a dit depuis le début de la lettre. À commencer par sa proposition majeure de Romains 1, 16, l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif d'abord, puis le grec. N'oubliez pas, ça c'est la proposition qui commande tout Romain, et donc c'est normal qu'ici il y ait des juifs et des grecs. Et donc des juifs explicitement qualifiés de syngenos, comme lui a dit au verset 9, en Romains 9, qu'il était voilà, ceux qui sont de mon genos selon la chair, hein, quand même, 9, 3. Donc, bon, voilà, je suis plutôt ce sens-là, qui est majoritaire chez les exégètes. Je dis juste que la traduction de la BJ est potentiellement trompeuse, voilà, parce que parent en français n'a pas exactement ce sens-là. Alors voilà, saluez les membres de la maison de Narcisse dans le Seigneur. Comprenez, saluez dans le Seigneur les membres de la maison de Narcisse. Alors Narcisse, c'est, si ma mémoire est bonne, le frère de Pallas. Et Pallas et Narcisse, ce sont les deux affranchis les plus riches du temps. Ce sont des Bill Gates de Rome. Bon. Donc Pallas, si ma mémoire est bonne, a été un des premiers ministres ou ministre des Finances de Claude. Hein, ce qui montre qu'un esclave à Rome ou un ancien esclave peut monter très 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 haut. Alors, il ne va pas être considéré par les grandes familles sénatoriales, il ne va pas pouvoir épouser des filles de sénateurs, mais enfin, son pouvoir est immense. Donc là, c'est plutôt Narcisse, on suppose plutôt que c'est le Narcisse, homme d'affaires et homme politique, et qui a des chrétiens dans sa maison. Saluez Tryphène et Tryphose, qui se fatiguent dans le Seigneur, bon, peut-être des frères et des sœurs. Saluez ma chère Persis, qui s'est beaucoup fatiguée dans le Seigneur. Bon, fatiguée dans le Seigneur, vous comprenez comment ? Oui, plutôt qui ont œuvré pour l'évangélisation, qui ont fait des choses concrètement, qui ont contribué à l'apostolat, sans pour autant être qualifiés d'apôtres, mais enfin qui ont... voilà. Saluez Rufus, cet élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Alors des gens disent Rufus est un frère de Paul, mais non, bon, sa mère qui est aussi la mienne, ça se dit entre amis, enfin je veux dire, ta mère c'est comme la mienne, enfin bon, voilà. Ça veut dire qu'il connaît aussi sa mère, parce que peut-être Rufus... si c'était un leader judéo-chrétien, vous voyez que, d'ailleurs, il peut tout à fait être juif, ce Rufus. C'est un nom typiquement romain. Mais par ailleurs, bon, son prénom de baptême, c'est-à-dire circoncision, c'était peut-être Jacob. Mais à Rome, tout le monde le connaît sous le nom de Rufus. Et quand il est devenu à Éphèse ou à Corinthe, on l'appelait, n'oubliez pas Corinthe, colonie romaine, très romanisée, il pouvait être connu sous le nom de Rufus. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas... Vous savez qu'Hermas va être un nom qui va donner lieu après au pasteur d'Hermas, un texte chrétien absolument fondamental de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, publié par source chrétienne, qui a eu une grande influence théologique, mais qui n'est finalement pas dans le Nouveau Testament. Enfin, s'il y a un texte qui a eu beaucoup d'influence en étant à la limite du Nouveau Testament, c'est bien le pasteur d'Hermas. Et les frères qui sont avec eux, donc on suppose qu'ils sont dans la même église, hein, dans la même maison. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Encore ce mot saint pour qualifier les chrétiens. Saluez-vous mutuellement d'un saint baiser, toutes les églises du Christ vous saluent. Bon, sous-entendu, toutes les églises du Christ, lesquelles ? Oui, celles qui, Corinthe, Éphèse, Thessalonique, enfin, celles où il a rencontré ces gens-là, où ces gens-là connaissent du monde, que Paul connaît et où il peut dire qu'il salue. Et si la lettre est écrite à Corinthe, Corinthe, ou les églises, comme il dit parfois, les églises d'Achaïe, hein, les églises d'une province. Alors vous savez que c'est Marie-Françoise Bacelès qui en fait un signe, c'est assez subtil et elle a sans doute pas tort, de la romanisation de Paul. Que Paul y pense vraiment par province romaine, pas par peuple. Il ne dit pas des Phrygiens ou des Grecs, il dit de l'Achaïe, de la Macédoine, de la Galatie, bon... il résonne en termes de province romaine. De même pour l'Espagne, qu'il appelle par son nom latin, transcrit en grec, plutôt que par le nom que les Grecs lui donnaient, ou les Phéniciens. Donc je saute le fameux avertissement. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros, alors mes parents, pareil, moi je dirais mes compatriotes, Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius qui écris cette lettre. Alors, donc ça, c'est le scribe. Gaius vous salue, qui est mon hôte et celui de l'Église entière. Donc apparemment, il est chez Gaius. Donc le Gaius qui est mentionné dans Acte 20, hein, Gaius de Derbe, de Doberès, hein, dans Acte 20. Donc Gaius, c'est un des proches collaborateurs de Paul. Eraste, hein, o oikonomos tes poleos, hein, l'économe de la ville, vous salue. Alors je crois que je vous avais parlé de la plaque d'Eraste, hein, et du coup de l'importance de ce petit verset pour montrer comment un chrétien pouvait être haut placé dans le conseil municipal d'une ville colonie romaine païenne. Ainsi que Quartus, notre frère. Bon. Donc, ce chapitre 16, pour moi, dit aussi, si vous voulez, l'importance que Paul accorde au bon accueil de sa lettre. Il demande qu'on prie pour qu'il soit bien accueilli à Jérusalem, mais il veut aussi que sa lettre à Rome soit bien accueillie. Il a des ennemis à Jérusalem, il a sans doute des ennemis à Rome. Simplement, il peut compter sur un plus grand nombre d'amis à Rome. D'où, une fois de plus, l'hypothèse de Günther Bornkamm, dont je vous avais parlé, que la lettre aux Romains, as last will and testament, bon, comme dernière volonté et testament, mais comme lettre ambassadrice théologique, hein, lettre médiatrice, lettre qui le précédera à Jérusalem, pour que Paul soit jugé sur ce qu'il dit vraiment. Ne me jugez pas sur les rumeurs et les racontars, jugez-moi, ni même peut-être sur certaines expressions un peu fortes ou un peu rapides que j'ai employées dans certaines de mes lettres et qui, tirées du contexte, comme toujours, ont pu choquer certains. Prenez-moi dans le contexte, prenez là où je m'explique vraiment à fond, parce que dans la lettre aux Romains, Paul, une fois de plus, déploie plus longuement que dans toutes ses autres lettres des argumentations précédentes. Vous voyez, ça c'est un argument de ceux qui disent que la lettre aux Romains est un petit peu le testament théologique de Paul, puisque, comme on l'avait vu sur la section 12-15, mais aussi sur Romains 4 sur Abraham, Romains 5 sur le Christ comparé à Adam, où il reprend des intuitions qu'il a mentionnées dans Corinthiens, Paul reprend ses discours, reprend ses grands thèmes théologiques. Finalement, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute le grand développement de Romains 9 à 11. Donc ça, je sais que j'ai beaucoup insisté là-dessus dans le rapport à Israël. Il ajoute le grand développement de Romains 9 à 11 pour se garder sur sa gauche, si je puis dire, alors que jusque-là, il s'était gardé sur sa droite. Il s'était affronté aux prédicateurs judéo-chrétiens qui regardaient de haut ces communautés. Et maintenant, il s'en prend à des pagano-chrétiens arrogants. Bon, donc, 9 à 11. Et puis, le fameux paragraphe de Romains 13, 1 à 7, dont je crois vous avoir aussi déjà parlé. Oui, sur les impôts. Hein. C'est-à-dire sur le fait qu'il ajoute ce développement. Là, vous pouvez faire plusieurs hypothèses qui ne s'excluent pas les unes les autres. Tout d'abord, évidemment, dire que il y a un problème d'impôts. C'est un problème à Rome. Paul est au courant que c'est un problème discuté à Rome et il offre son avis, comme il dit ailleurs, en homme qui a aussi l'esprit du Seigneur et qui ne raconte pas n'importe quoi. Bon, donc, voilà ce que je dis sur la question. Ou, hypothèse B qui n'est pas contradictoire, pour contrer à l'avance, pour déminer à l'avance l'accusation qu'il est un subversif, qui s'oppose à l'ordre de Rome, que c'est un révolutionnaire, qu'il a été en prison, que c'est un homme dangereux, que c'est un homme extrémiste, que c'est un homme qui va nous attirer des ennuis, etc., etc., on a déjà été expulsé une fois, on a des problèmes. À Rome, il faut vraiment payer ses contraventions, marcher de traverser dans les clous et vraiment montrer qu'on est de bons citoyens. Bon, voilà, vous voyez que ça ne s'exclut pas. En tout cas, Paul a tout intérêt à montrer son image d'homme juste, raisonnable et religieux, comme diront les trito-pauliniennes. Bon, donc, voilà. Donc, il ajoute quelque chose, mais l'ensemble de la lettre aux Romains ne fait que reprendre plus abondamment des choses qu'il a déjà dites. Voilà. Donc à une communauté qu'il n'a pas fondée, qui est manifestement qui se réunit dans plusieurs églises, qui est sans doute dans plusieurs maisons, église égale maison, qui est sans doute formée, qui existe depuis longtemps. Bon, on n'en sait pas complètement trop rien, parce que même Andronicus et Junias auraient pu se convertir à Antioche ou Éphèse et arriver à Rome après. Enfin, en tout cas, il y a sans doute là des gens qui sont chrétiens depuis, voilà, depuis 20 ans, et la plupart des historiens actuels, donc le grand spécialiste est Peter Lampe, hein, comme une lampe en français, un allemand, vous pouvez trouver des trucs sur, parfois sur internet de lui, Peter Lampe, il a consacré 25 ans de sa vie aux juifs et aux chrétiens de Rome au 1er et 2e siècle, hein, voir un petit peu les catacombes, les fouilles, les inscriptions qu'on a, bon. Donc, on sait à la fois que la communauté juive était très parcellaire, divisée, 13 synagogues, pas de conseil central, c'était la pagaille, et que la communauté chrétienne, du coup, sans doute un peu aussi, quoi. C'est-à-dire divisée entre plusieurs maisons, avec plusieurs courants, plusieurs chefs. Bon. Pour ça que Paul marche un peu aussi sur des œufs, qu'il est très prudent, même en Romains 14, quand il parle des faibles et des forts, il est très prudent, il désigne des groupes de manière vague, pour pas offenser les uns ou les autres. Donc, pour oui, conclure un peu sur cet élément-là, il me semble qu'il faille retenir cette idée fondamentale d'un Paul qui offre sa vie pour la communion des églises. Prenez communion dans les deux sens de cet exégète, Julien Augereau, enfin, spirituel et matériel, les deux allant ensemble. Donc la koinonia pour la communion entre les églises, pour donc l'unité réelle du corps du Christ, si vous voulez. Que donc sa mort martyre à Rome est quand même liée au fait qu'il a voulu monter à Jérusalem, puisque c'est là qu'il a été arrêté, et que ses ennuis judiciaires graves commencent. Alors, grave, enfin, que ses ennuis judiciaires finaux, parce que il a sans doute déjà été arrêté à Éphèse. Mais que, alors, c'est peut-être pour ça que Luc ne raconte pas ni la collecte, ni le motif de l'arrestation. Si des gens le disent, mais enfin, tu finis juste par deux lignes à Rome, et puis tu nous racontes beaucoup Paul à Jérusalem, faisant ses discours. Mais oui, Luc va dire, mais c'est parce qu'il est monté à Jérusalem qu'il est mort à Rome. Moi, je vais directement au cœur des choses. Donc, et puis d'ailleurs, on peut dire aussi, les historiens vont nous dire, enfin, quand même, Luc, tu exagères, raconte-nous la mort de Paul. Bon, alors sa naissance, on s'en fout un peu importe. Bon, enfin, de toute façon, on sait où il est né. Bon, enfin, dis-nous un peu où et comment il est mort. Qu'est-ce que ça te coûtait d'ajouter quelques lignes à la fin d'acte 28 ? Alors, comment on peut répondre à cette question juste sur acte 28 ? Je vous rappelle la fin de acte. Bon, on arrive à Rome. On trouve des frères. Bon. Quand nous fûmes rentrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec le soldat qui le gardait. Bon. Je suis en 28-16. Bon. Apparemment, ce n'est pas un truc bizarre. Enfin, ça arrive. C'est un statut pour gens importants, ayant un peu des moyens. Enfin, c'est possible. Résidence surveillée. Trois jours après, Paul convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit « Frères ». Alors, moi je trouve que c'est quand même important qu'on s'arrête là. Qu'on voit que Luc nous décrit, à la fin des actes, alors que ça fait, après des chapitres et des chapitres, qu'on a vu Paul dire « Mais puisque vous n'écoutez pas, c'est terminé », il continue à parler aux juifs et continue à leur dire « Frères », comme il a dit aux chrétiens en acte 20. Alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Bon. Vous voyez que là, Paul ressemble beaucoup à Jésus pour Luc. Hein? Alors certains disent, Luc a voulu rapprocher un peu plus Paul de Jésus que ce n'était le cas dans la réalité. Il y a clairement une dimension apologétique, y compris vis-à-vis de la communauté juive. Donc, ad intra chez les chrétiens qui n'aiment pas Paul, mais peut-être aussi chez les juifs qui ne l'aiment pas, pour dire, vous faites de Paul un apostat, un traître, quelqu'un qui n'aime pas son peuple, etc., c'est faux, parce qu'il est contre la circoncision, etc., ni contre les coutumes de père. Moi, je dis qu'il n'était pas contre. Enquête faite. Ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritait la mort. Ça vous rappelle quelque chose. Alors, ça participe de la stratégie globale de Luc, qui est suivie par Jean, comme vous savez, dans les évangiles, de diminuer un peu la responsabilité des Romains pour faire monter la responsabilité des chefs juifs et des autorités du temple. Pourquoi ? Parce que sous Domitien, vers 95-100, il commence à y avoir des persécutions et que les chrétiens essayent de dire aux Romains « Mais nous, on n'est pas... » Vous voyez, si dans les évangiles, où là, il y avait « Oui, les Romains sont des impies, qui sont injustes, qui sont incapables d'eux. » Alors, un juge romain, il prend le texte, il dit « Regardez ce que vous écrivez. Vous êtes des gens dangereux. Je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. » Donc, dans la stratégie de crédibilisation du christianisme, nous ne sommes pas une barbare superstition orientale, premier élément majeur de Luc. Deuxièmement, qui ne s'adresse qu'aux dockers. Nous nous adressons aux gens importants, Sergius Paulus, Priscille Aquila, des notables, Publius, premier gouverneur de Malte, etc. Deuxième élément, nous ne sommes pas une religion de révolutionnaires qui contestons frontalement l'Empire. Alors là, Luc pourrait dire au camarade Jean de Patmos, auteur de l'Apocalypse, « Mon Toto, tu nous feras un mauvais service. » Parce que si le juge romain dit « Oui, alors attendez, je comprends pas bien dans votre mouvement, parce que là, la grande prostituée, Babylone, etc., faudrait savoir. » Bon. En tout cas, Luc, il y a une volonté de minimiser, soit de dire les Romains, bon, voilà, il y a des autorités, bon, les juges font leur boulot, mais enfin, dans l'ensemble, voilà, ils respectent la liberté religieuse, grosso modo. Mais comme les Juifs s'y opposaient, alors là, il parle presque comme Jean, il ne dit pas les autorités juives, bon, les Juifs de Jérusalem, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Ça, c'est aussi très intéressant. Je ne veux pas non plus accuser ma nation. Jésus lui-même ne voudra pas accuser sa nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. Alors vous vous souvenez que l'espérance d'Israël, il en a déjà parlé, devant qui ? Devant le Sanhédrin notamment, hein, c'est à cause de l'espérance d'Israël, pour notre espérance, la résurrection des morts, acte 23, verset 6. Hein, donc, Luc montre qu'il sait bien écrire, bon, cette espérance, c'est la résurrection. Bon. Ça rapproche, si vous voulez, le projet religieux chrétien de ce que des juifs de la fin du 1er siècle peuvent entendre. Nous ne renonçons pas à l'espérance d'Israël. Notre espérance, notre Messie ressuscité, c'est l'espérance d'Israël. La résurrection du Messie, et dans le Messie, celle de tous ceux qui croient en lui, et la vie pour le peuple. Bon. Ils lui répondirent, alors ça, des gens disent, c'était quand même un peu improbable, mon ami Luc, mais bon. Ils lui répondirent, pour notre part, nous n'avons reçu à ton sujet aucune lettre de Judée, et aucun des frères arrivés ici ne nous a rien communiqué, ni appris de fâcheux sur ton compte. Bon, là, les gens disent, Luc est un bon avocat, quand même. Parce que, vu tout le ramdam qu'il y a eu à Jérusalem sur le compte de Paul avant, la lettre aux Romains 3.8, où il y a des choses qui circulent, le nombre d'amis de Paul qui sont à Rome, un peu bizarre que les Juifs, alors ils étaient à 3000 km, non, on habite dans un autre quartier, on n'a rien entendu, un peu bizarre. Du coup, vous voyez là, c'est pas un procès historique, sur le fond historique, peu importe. La chose à lire pour nous, l'Esprit Saint a voulu que Luc nous dise ça. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, on va l'entendre jusqu'au bout, l'offre du Messie Jésus, Messie d'Israël, fils de David, reste sur la table devant Israël. C'est ça que Luc continue à dire dans le chapitre 28. Ce qui fait que je pense, avec Simon Butica, ce jeune exégète protestant suisse qui est l'élève de Marguerat, qui a écrit une somme monumentale sur l'ecclésiologie des actes, des dernières grandes thèses sur les actes, qu'effectivement, il a fait un petit article aussi là-dessus récemment, il y a un an, Luc est assez fidèle à Romains 9.11 dans les actes. Les Juifs d'abord, puis les Grecs, voilà. Dans les actes aussi, Paul continue à aimer son peuple, à leur parler, à les traiter de frères, à leur dire « Votre Messie, c'est Jésus, il est toujours là pour vous, la main est tendue. » Ce qu'il dit en substance dans Romains 9, non ? « Je suis prêt à être séparé du Christ pour que mes frères le rencontrent. » Bon, c'est pas au passé, il dit pas « Ils n'ont pas entendu, maintenant c'est fini. » Non, non, moi je suis l'apôtre des nations, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber les Juifs. C'est pas le cas dans Paul, Romains 9 et dans Actes. Mais nous voudrions entendre de ta bouche ce que tu penses, car pour ce qui est de ce parti, cet aïrésis, bon, hérésie, comprenez parti au sens strict, ce groupe religieux, nous savons qu'il rencontre partout la contradiction. Alors qu'est-ce que ce mot contradiction vous rappelle dans Luc Acte ? Mobilisez votre mémoire biblique. Non mais dans l'œuvre de Luc Acte, où est-ce qu'il est question de contradiction ? C'est, selon Odile Flichy, ma collègue, et selon d'autres grands exégètes, un petit peu l'équivalent de la proposition théologique majeure de toute Luc Acte. C'est vrai que vous n'avez pas suivi mon cours sur Luc Acte de première année. Contradiction, aidez-moi, qui parle de contradiction ? Siméon, l'enfant que voici sera un signe de contradiction. Et donc, vous avez une gigantesque inclusion avec le début de Luc. Et que dit justement Siméon ? Parce que c'est très important ce qu'il dit, Siméon. Il dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. » Notez, la chute et le relèvement, et pas le contraire. Ça, c'est mon côté pharisien et rabbinique. C'est très important que dans le cantique d'Anne, vous savez, le Seigneur fait descendre en l'abîme, à l'abîme et en ramène. On ne dit pas, il fait sortir l'abîme et il fait tomber. On finit toujours par le positif, par la résurrection. Donc, la chute et le relèvement d'un grand nombre, il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Bon, ben ça, c'est le projet de lui. Cet enfant, voilà ce qu'il sera, et il sera lumière des nations, le cantique d'avant, voilà, maintenant, tu peux laisser ton serviteur, mes yeux ont vu ton salut, n'oubliez pas que derrière, il y a un jeu de mots évident en hébreu, Yeshua, un homme nommé salut, ils ont vu ton Jésus, ton salut, le juif comprend tout de suite le jeu de mots, mes yeux ont vu ton salut, ton Jésus, que tu as préparé à la face de tous les peuples, c'est comme Romains 16, tout homme qui croit, ça suffit, non, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël, donc jusqu'au bout, le peuple c'est Israël. Donc, là, on se souvient de ça. Ils prirent donc jour avec lui, bon, ils se mirent d'accord, et vinrent en plus grand nombre le trouver en son logis. En plus grand nombre, il y a du relèvement. Dans l'exposé qu'il leur fit, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait à les persuader au sujet de Jésus en partant de la loi de Moïse et des prophètes. Ça vous rappelle quoi ? Emmaüs, évidemment, le sommet, le bouquet final de Luc, de l'Évangile, Luc 24, Emmaüs. Donc Paul... Eh bien, il parle comme Jésus, il parle du royaume et il parle au sujet du Messie en partant de la loi de Moïse et des prophètes. Sauf que maintenant, évidemment, ce n'est pas Jésus qui parle de lui, ça devient le Messie, ça devient Jésus. Qui est le Messie ? C'est Jésus. Donc, il parle de Jésus, le Messie, en partant de la loi de Moïse et des prophètes. Alors, il n'y a plus les psaumes. Pourquoi il n'y a plus les psaumes ? Ça, c'est parce qu'un écrivain antique, il fait des effets de variatio. Si vous vous répétez littéralement, ce n'est pas drôle. Il faut reprendre, mais avec une petite différence. Cela dura du matin jusqu'au soir. Alors, verset capital, les uns se laissaient persuader par ces paroles, les autres restaient incroyants. Une fois de plus, incrédule est une bêtise en français. Donc ça, c'est la structure fondamentale dans Luc. Les uns écoutent, pas les autres. Mais depuis le début, et pour tout le monde, c'est comme ça. La parole, le glaive, tranche. Certains se laissent toucher, ce que l'Esprit de Dieu a préparé depuis les siècles éternels, et d'autres s'endurcissent, Romains 9, 11, et n'écoutent pas. Bon. Voyez qu'il ne dit pas un tout petit nombre. Je vais faire un peu de lutte contre le jansénisme et contre Pélage et le dernier Augustin, qui disait la massa damnata, c'est 95% des gens qui vont en enfer. Bon. Il ne dit pas ça, Luc. Il ne dit pas un tout petit nombre est convaincu, et l'immense majorité refuse d'écouter, non ? Les uns, les autres. Discours d'Athènes ? Eh bien, Denis, membre de l'aéropage, et une femme, Damaris, et quelques autres, furent gagnés à la fois. Les autres, non. Alors tout le monde dit, vous voyez, ça c'est, je reprends un disque de ma collègue Odile Frichy, tout le monde dit échec de la prédication de Paul à Athènes. N'importe quoi. Pas du tout un échec. Je veux dire, il a converti un membre de l'aéropage. Je veux dire, bon, il y a deux mormons qui vont à l'Assemblée nationale, ils font leur petit speech et convertissent un député, ils sont contents, hein. Ils ont raison. Donc là, en plus, un membre de l'aéropage, une femme importante, Damaris, d'autres personnes. Je veux dire, bon. Donc la structure, elle est la même. Elle est la même depuis la première fois que Jésus a fait le même coup. Luc 4. Bon, il y en a qui écoutent, tous le rendaient témoignage. Bon, alors là, même entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Tous, ça se passe pas bien. Mais après, voilà, les uns écoutent et les autres non. Et c'est régulier. Même chose pour Élie et Élisée. Bon. Ils prenaient congé sans être d'accord entre eux. Bon, c'est bien normal. Quand Paul dit ce simple mot, elles sont bien vraies les paroles que l'Esprit-Saint a dites à vos pères par la bouche du prophète Isaïe. Alors là, Luc a vraiment voulu finir par cet oracle fondamental, le texte le plus cité du Nouveau Testament, Isaïe 6, 9, 10 et suivant. Va trouver ce peuple et dis-lui, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Ça, c'est un choix. En hébreu, on répète toujours les termes. Vous savez qu'au moment du déluge, on dit, pour ce qui est de pleuvoir, il pleuvait. Ça, c'est la structure de l'hébreu. L'intensif, on répète le même. Vous aurez beau écouter, vous n'écouterez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne regarderez pas. C'est que le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et je les aurai guéris. Alors, je crois que je vous ai déjà parlé de ce « et je les aurai guéris », qui dans Isaïe peut être traduit par un futur. « Et je les guérirai » ou « ne les guérirai-je pas ». En tout cas, la main est tendue. Pourquoi c'est un passage génial pour les chrétiens? Une fois de plus, pour la théologie chrétienne, c'est un passage qui dit, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui n'écoutent pas. Les gens qui n'écoutent pas, eh bien, ils sont endurcis. Mais en disant qu'ils sont endurcis, quelque part, ça leur laisse une chance. Le Seigneur pourra les toucher. Je peux encore les guérir. La main, elle est toujours tendue. Sachez-le donc, c'est aux païens qu'a été envoyé ce salut de Dieu, même jeu de mots qu'avec Siméon. Eux, du moins, ils écouteront. Bon. Évidemment, beaucoup de gens, pendant longtemps, ont dit, voilà, fin de non-recevoir, condamnation d'Israël, c'est terminé, fin des haricots, boum. Mais oui, mais Paul, il parle comme ça depuis le début. Je suis ministre des païens, et voilà. Alors qu'en fait, on voit qu'il s'adresse tout le temps aux juifs. Ça, c'est dans les actes. Et dans les lettres, on voit que dans Romains 9 à 11, à la fin de 25 ans de ministère auprès des nations, il continue à s'adresser et à penser aux Juifs. Donc, il y a cohérence. Voilà, alors là où les historiens font des petits reproches à Luc, c'est sur son épilogue. Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus, avec pleine parésia, pleine assurance, dernier cours de Michel Foucault au Collège de France, la parésia, le franc-parler des philosophes, la franchise, et sans obstacle. Alors, pourquoi Luc finit comme ça? Faisons un exercice de creative writing. Alors, on dit, bon, comment il aurait pu finir? Pourquoi, quel est l'intérêt de finir comme ça? C'est bon, hein? Quel est l'avantage? Voilà, comme la fin de Marc 16,8, c'est-à-dire l'évangile, ça continue. On est dans un espèce de présent éternel. Paul, il est mort. Mais oui, je sais qu'il est mort. Mais il est là. Il vous parle. Vous avez ses lettres. Je vous ai raconté sa vie. Jésus. Ça continue. L'esprit de Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tout ça, ça continue. Donc, je vais pas finir avec un tombeau sur lequel on va mettre une croix. Enfin, je veux dire, c'est nul. Bon. Donc, moi, je mets ça peut-être comme premier motif. C'est-à-dire cet effet d'inclure le lectorat dans les destinataires de la parole. Voilà. Il proclame le royaume, il enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus, Ben, c'est ce que Luc a dit au début de son évangile, mon cher Théophile, pour que tu saches, que tu te rendes compte de la sûreté des enseignements que tu as reçus. C'est quoi ces enseignements? Eh bien, c'est Luc, acte. Ça boucle. Il enseignait ce qui concerne le Jésus. C'est quoi? Eh bien, c'est tout ça. C'est ce que tu viens de lire, mon ami. C'est ça, ces enseignements. Et ils sont sûrs. Tous ceux qui veulent le trouver viennent. Alors moi, dans ce « tous ceux », je persiste à entendre le « tous ceux », comme Odile, le « tous ceux » de Romains 16, c'est tous ceux qui croient juifs et grecs. Bon, il ne va pas le répéter pour la 19e fois. Enfin, il faut comprendre. Tous ceux qui venaient le trouver, virgule, le juif d'abord, puis le grec, les juifs et le grec, les nations et le peuple saint, enfin tout ce que vous voulez, bref, tout le monde. Donc, voilà. C'est une manière aussi, parce que là on peut dire, par rapport au projet espagnol, alors Luc était peut-être au courant du projet espagnol, Paul, il a, ça, alors là on est tous d'accord, Paul il n'a pas fini là où il voulait finir. Enfin, là où il voulait finir dans ses plans humains. Ses plans humains, c'était d'aller en Espagne. Bon, pardon pour les Espagnols qui sont là, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, si vous dites ça en Espagne, vous vous faites écharper. Mais il n'est pas allé, il est à 98%, si je parle au plan historique, il n'est pas allé en Espagne. En tout cas, dans le Nouveau Testament, il n'est pas allé en Espagne, ça c'est sûr. Et en pratique, sans doute, il n'est pas allé en Espagne. C'est important? Non. Il est allé jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire le centre du monde, c'est-à-dire Rome. Et il a rendu témoignage au Christ à Rome. C'est bon, il a couru sa course. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc quelque part, en plus, il est resté 2 ans à parachever cet enseignement. Notez que ça a la petite astuce aussi, accessoirement, est-ce que Paul prêche à l'église de Rome? Ben non, il est chez lui, donc il est chez aucune église. Donc, soit que quelqu'un dise « oui, c'était chez nous et pas chez eux », ou que quelqu'un dise « mais moi j'ai pas souvenir, il a été arrêté très vite, et puis on sait pas trop, le jugement, oui, il a reçu 3-4 délégations de gens dans sa prison, mais enfin tout de suite après, il a été mis au pain et à l'eau dans les prisons des fosses ardéatines, que sais-je ». Bon, lui, je m'en fous, ça. Il a été à Rome, il a annoncé l'évangile, il a prêché, il a été lié à aucun clan, il est mort à Rome, voilà. Bon. Donc ça a cet avantage aussi, il est chez lui. Est-ce que c'est crédible, une fois de plus, d'un point de vue historique? Et si quelqu'un vous dit, mais alors vos affaires, mais là, bon... Oui, c'est un type de traitement des prisonniers qui existait à l'époque. Parce que je vous ai déjà dit que bon, dans les prisons de l'époque, il n'y a pas de plateau repas, cachère ou pas cachère, halal ou pas halal, ça n'existe pas. Donc, soit vous avez quelqu'un, vous payez le gardien, ou vous avez des amis qui vous amènent à manger, ou voilà. Ce que j'ai vu dans les hôpitaux au Tchad. Dans les hôpitaux au Tchad, ben, si on ne vous amène pas à manger, vous mourrez. C'est pour ça que vous avez votre famille qui campe dans la cour devant et qui vous fait la boule de mille, parce qu'il faut bien que quelqu'un vous donne à manger. Donc, voilà. Alors, l'autre raison théologique qui a été un peu développée par Marguerat, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je le redis en 2 phrases, c'est l'idée que, comme pour Pierre, parce que n'oublions pas que pour Pierre, c'est la même chose. Il partit en hétéro topo, hein, vers un autre lieu. Alors, c'est quoi cet autre lieu? Ben, on ne sait pas. Bon. Il ne nous dit pas non plus que Pierre est mort à Rome. Donc, ni de Pierre, ni de Paul, il ne raconte la mort, ni où, ni quand. Bon, ça fait pour 2, ça commence à faire beaucoup. Il y a un projet derrière. Bon. Donc, l'idée, c'est de dire... L'intuition théologique, je ne veux rien mettre au même niveau que la mort et la résurrection du Christ. Le chrétien, il ne raconte qu'une seule mort et qu'une seule résurrection, celle du Christ. Vous me direz, mais dans le Christ, il y a la nôtre aussi, celle des saints et de Pierre et de Paul. Ok, mais moi, je me concentre sur l'essentiel. Je ne vais pas prendre le risque, ça a été une critique après au IIIe siècle de certains païens, dans les actes des apôtres, je vous montre déjà des apôtres qui font tout comme Jésus. Ils enseignent le royaume, ils guérissent les malades, ils ressuscitent les morts, eutiques, ils guérissent les paralytiques. L'ombre de Pierre guérit, les mouchoirs de Paul guérissent. Enfin, je veux dire, tout comme Jésus. Mais il ne faut pas risquer de croire que Pierre ou Paul seraient, comme a dit l'homme, comme on dit Paul et Barnabé aux Lycaoniens, nous ne sommes que des hommes, attention, calmez-vous. Bon. Donc, pour ne pas risquer de les mettre sur le même plan théologique que Jésus, eh ben, on ne va pas raconter leur mort et leur résurrection. Voilà. Donc, on rajoute un motif un petit peu littéraire et politique, un motif théologique. Là-dessus, 3e étape, ça c'est mon directeur de thèse qui vient de diriger une thèse là-dessus, d'un jeune prêtre italien. 3e hypothèse, vous dites, mais la mort et la résurrection de Pierre et de Paul, vous l'avez déjà. Elle est dans les Actes des apôtres. Pour Pierre, c'est le chapitre 12. Il est mis au cachot, il va être exécuté, et puis au cœur de la nuit, comme la nuit de la vigile pascale, tout s'ouvre, et Pierre sort, marche dans la ville, guidé par un ange, et puis il arrive chez les chrétiens réunis, il frappe à la porte, et puis il y a la bonne Rose là, Rose la servante Rose, comme on dit dans le midi, Rose, qui vient lui ouvrir, qui ne reconnaît pas sa voix, ou qui reconnaît sa voix, justement, la voix, et puis qu'il ouvre la porte, voilà, Pierre, il est sauvé. Pierre, il est mort, il était en prison, hop, il est ressuscité. Et Paul, même chose, la tempête, 3 jours et 3 nuits. Il fait naufrage, et là, vous avez une tempête, mais alors, en technicolor, enfin, vraiment, Paul, il va mourir, là. Ils se voient tous morts, ils n'ont pas mangé depuis des jours, etc. Et puis, hop, la plage, Malte, hop, et puis ils guérissent, et puis il y a un serpent qui veut le tuer, thème classique de la littérature du temps, qui le pille. Il ne se passe rien. Paul, il est vivant, plus rien ne peut l'atteindre, la mort ne peut plus l'atteindre. Ils ont essayé de le lapider, ils ont essayé le naufrage, enfin ils ont essayé, là, c'est plutôt Satan, la vipère, enfin, il est immortel. Ou il est mort et il est ressuscité, prenez-le comme vous voulez. Donc c'est une troisième hypothèse qui dit, si vous voulez, la mort et la résurrection, métaphoriquement, théologiquement, elles nous ont déjà été dites de Pierre et Paul. Et c'est assez séduisant, je trouve, comme proposition de sens. Parce que pour l'un et pour l'autre, si vous reprenez, alors il y a des exégètes qui l'ont fait, si vous prenez acte 12, c'est truffé d'allusions au récit de la passion et de la résurrection. Hein, sur Pierre. La nuit même, les anges, l'ange du Seigneur survint, le cachot fut inondé de lumière, etc. Debout. Les portes s'ouvrirent, ils allèrent, bon, l'ange le quitta. Maintenant je sais que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple des Juifs. S'étant reconnu, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où une assemblée assez nombreuse s'était réunie et priée. Il heurta le battant du portail, une servante, nommée Rose, vint aux écoutes. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, courut à l'intérieur, ça vous rappelle des choses, courir, comme Jean au tombeau, etc. Annoncer la nouvelle, l'annonce que Pierre était là. On lui dit « Tu es folle !» Quand les femmes vont dire aux disciples « Mais vous êtes des racontards et vous êtes folle !» Bon. Mais elle soutenait qu'il entendait bien. « C'est son ange » dirent-ils. Voyez, comme on prend Jésus pour un ange ou un fantôme. Donc c'est son ange. Pierre cependant continue à frapper. Quand ils ouvrirent, ils virent que c'était bien lui. Et c'est truffé de résurrection ce texte. C'est saturé de résurrection. Donc vous voulez la résurrection de Pierre, je vous la mets. Quant à Paul, en acte 27, c'est la même chose. En plus, truffé d'allusions eucharistiques. Voilà, nous étions furieusement battus de la tempête. Alors, verset 20. « Ni soleil, ni étoile n'avaient brillé depuis plusieurs jours. La tempête gardait la même violence. Tout espoir de salut était perdu pour nous. » Il n'y a plus le soleil, plus la nuit. C'est la mort. « Il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. » On n'a plus mangé. Alors Paul, debout au milieu des autres, dit, etc. « Quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage. Aucun de vous n'y laissera la vie. Le navire seul sera perdu. Cette nuit m'est apparu un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, et qui m'a dit, sois sans crainte, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage, mes amis. Je me fie à Dieu de ce qu'il en sera, comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Voilà. Et puis alors l'histoire continue, et à la fin, ils sont tous sauvés. C'est ainsi que nous parvînmes, sains et saufs, à terre. Bon. Et au milieu, il y a la scène de l'Eucharistie, suivie du « Nous étions en tout sur le navire, 276 personnes à bord ». Alors, j'ai publié un petit article dans la revue protestante de Montpellier, « L'étude théologique et religieuse », sur 276. Alors, je suis très fier parce que c'est l'un des rares articles publiés où l'auteur dit « J'ai pas trouvé la solution de mon problème ». Normalement, vous publiez un article pour dire « J'ai trouvé la solution du problème ». Puis les gens sont d'accord ou pas d'accord. Alors, moi, j'ai fait tous les efforts pour essayer de dépatouiller ce 276, en le comparant aux 153 poissons de Jean 21, parce que c'est aussi un nombre triangulaire, Luc ne s'amuse pas à mettre des nombres par hasard comme ça, mais j'ai toujours pas trouvé, comme tous les pères de l'Église et autres docteurs du Moyen-Âge qui ont travaillé sur ce 276 jour et nuit, si vous avez une idée, faites-moi signe, vous avez une gloire mondiale, le prix Nobel d'exégèse, enfin, je veux dire, il vous est... Bon, on va faire la pause quand même jusqu'à 15. Et puis après, je conclurai et prendrai vos questions. Voilà, voilà. Alors, je vais essayer quand même de garder un peu de temps pour quelques questions. Quelques éléments un peu de conclusion sur Paul qui reprennent un peu les six thèmes que j'ai développés. Donc Paul de Tarse, cet homme d'une grande ville, ce pharisien, cet homme de culture hellénistique, qui a toujours été croyant, qui a toujours été un homme moral, un homme zélé pour Dieu, a été pris d'une foi intense dans le Messie Jésus. Voilà, on peut dire ça. A été pris. Il m'a saisi, je l'ai saisi. Cela l'a conduit à tout relire d'une manière différente, y compris les choses qui étaient les plus chères au peuple d'Israël, le temple, la loi, la terre, la création. Tout a été relu dans le Messie. S'il y a une phrase qui résume Paul, vous savez, c'est « En Christo Jésus », dans le Christ Jésus. Il faut vivre dans le Christ Jésus, le monde a été fait dans le Christ Jésus, toute la loi s'accomplit dans le Christ Jésus, etc. Dans le Christ. Alors, quelques-unes de ces intuitions sont tout aussi centrales pour le destin de l'humanité que pour celui du christianisme. Je n'en prendrai que quelques-unes qui ont marqué la théologie, notre temps. Alors, une chose qu'on lui reproche, dont on peut se moquer, mais qui est fondamentale pour la conscience chrétienne, c'est « le temps se fait court ». Le temps se fait court, le temps nous est compté. D'abord, c'est toujours vrai au plan personnel. S'il fallait définir en une phrase la conviction de Paul, c'est maintenant le temps du salut. Et j'aime beaucoup l'exégète américain Jean-Louis Martin, qui dans son grand commentaire sur Galates de Encore Bible, il dit « La question que Paul pose à ses frères juifs, c'est une seule question, c'est « What time is it ?» Toute la vie de Paul se joue sur la réponse à cette question, et c'est très profond comme phrase. Nous sommes dans le temps du Messie. Les choses ont changé, les amis, mais on continue à pratiquer la loi de Jésus. Le temps, les éons ont changé, le Christ est venu, tout est rebattu. Vous n'avez pas réglé votre montre. Donc, ce n'est pas que je vous reproche que votre religion est mauvaise, c'est qu'il n'y a pas le Christ. Et ça, c'est la grande conclusion de E.P. Sanders dans son livre majeur de 77 sur Paul et le judaïsme palestinien. Luttant contre des siècles de mépris et de description du judaïsme comme une religion pas bonne, des œuvres, etc., perverses, etc. Il dit cette chose. Le seul problème, finalement, que Paul voit dans le judaïsme, c'est qu'il n'y a pas le Christ. C'est ça le problème. Donc, les théoriciens de ça disent Paul, c'est pas quelqu'un qui va du problème de l'humanité, les péchés, machin, à la solution, chercher le Christ, hein, avant, après. C'est quelqu'un qui va de la solution, from solution to plight, and not from plight to solution. Pas du fardeau de l'humanité à la solution, mais de la solution au fardeau. C'est-à-dire que Paul voit la vérité de l'humanité dans son péché à partir de la lumière du Christ. C'est la lumière du Christ qui change tout. Paul lui-même, avant, il vivait très bien, comme il dit, conscience irréprochable. C'était pas quelqu'un qui dit, oulala, j'ai de gros, gros problèmes existentiels, de gros, gros péchés, il y a des choses qui vont pas du tout, du tout. J'ai besoin d'un grand sauveur. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Paf, le Christ s'est révélé à lui comme Messie d'Israël. Ici, maintenant, Dieu agit. Voilà. Dieu agit. Et il est devenu apôtre de ce Jésus. Vous savez en quel temps nous sommes, voici l'heure de sortir de votre sommeil. Aujourd'hui, en effet, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche, rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, conduisons-nous honnêtement comme en plein jour. Romains 13, 11, 2 Corinthiens 6, c'est le thème. Deuxième élément, l'universel, hein, tout homme qui croit. Effectivement, il y a un changement par rapport à l'élection d'Israël. Elle n'est pas annulée, mais une étape du plan de Dieu, qui était prévue dans l'élection d'Abraham, est enclenchée. Ce moment et ce mouvement d'universalisation de l'humanité n'est pas et ne doit pas être, et là je prends en compte les objections des philosophes contemporains, une négation des différences. Nos langues humaines, nos cultures sont bonnes, riches, créées par Dieu, légitimes en soi. Il y a des différences entre les Chinois et les pas Chinois, entre les hommes et les femmes, tout ça c'est bien, c'est pas mal en soi. Mais nous sommes appelés à faire partie d'un seul corps. Donc il y a un projet d'unification de l'humanité avec une prise en compte réelle de sa diversité. Il ne s'agit pas de renoncer à son identité culturelle ou nationale pour devenir fils de Dieu. De même que les chrétiens d'origine païenne n'ont pas eu à renoncer à leur identité pour devenir juifs, mais ont reçu une dignité commune, sont entrés dans l'Alliance sans renoncer à leur culture. Voilà, le passage d'Éphésiens, hein, vous étiez voilà, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Il ne dit pas sans culture ou sans langue. Il ne dit pas qu'il n'y avait pas de bonnes choses dans les cultures. Bon. Le Concile Vatican II disait de l'Église, vous savez qu'elle était sacrement pour le monde. C'est ça que doit être l'Église. Un signe qu'il est possible d'être réellement en communion, de partager une même foi, un même pain, dans le respect des cultures et des langues. Et là, la clé, le don de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, c'est pas une anti-Babel, comme on dit souvent, la Pentecôte. C'est un nouveau Sinaï, mais avec la différence que tous peuvent se comprendre en parlant leur langue. On ne revient pas à l'état, vous savez qu'à Babel, tout le monde parlait la même langue, puis Dieu a fait que les gens parlent des langues différentes. Bah, l'anti-Babel, ce sera la Pentecôte, paf, tout le monde va parler la même langue. Il y a un miracle, tout le monde parle hébreu ou araméen. Non, tout le monde peut comprendre dans la langue de l'autre le don de Dieu. C'est ça le christianisme. Se découvrir frère tout en étant différent, proche sans être semblable. Vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui qui est notre paix. C'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons l'accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la oikos tou theou. Hein, vous êtes de la maisonnée de Dieu. Toutes les cultures et tous les peuples appartiennent à la maisonnée de Dieu. Paul est aussi, troisième élément, donc le temps est court, le salut est pour tous, et l'espérance est ouverte. Hein, l'espérance pour la multitude, pour l'humanité, pour Israël, pour son peuple, espérance jusqu'au bout. Le mystère, c'est que Dieu sauvera. Et là, il est conforme au prophète, hein, Romains 11, 32. Et si Dieu a tout enfermé, comprenez, si le plan de Dieu a laissé faire que les hommes semblent s'enfermer dans le péché et la mort et le refus, etc., etc., c'est pour faire à tous miséricorde. Hina, afin que. Bon, j'avais parlé de ce cri de Romains 9, hein. Je souhaiterais être moi-même séparé du Christ pour mes frères. Cet homme qui dit ça, il a dit le Christ, pour moi vivre, c'est le Christ. Donc, il se contredit. Ça veut dire je suis prêt à mourir pour mes frères, séparé du Christ. Ça veut dire que Paul... Tout le monde pourrait lui dire, mais laisse tomber, c'est fini, les Juifs, ils n'ont pas voulu comprendre, c'est leur problème, maintenant, il faut faire autre chose, il faut aller parler aux Papous, aux Népalais, aux Baloubas, enfin, n'importe qui. C'est fini, maintenant, les Juifs. Non, ils ne renoncent pas. C'est pour en sauver quelques-uns. Quand tous les païens seront entrés dans la famille de Dieu, dans le corps du Christ, alors tout Israël sera sauvé. C'est une vision prodigieuse et qui nous laisse du grain à moudre. Il y a encore 1 milliard de Chinois et 800 millions d'Indiens qui ont quand même un rapport à Jésus-Christ assez limité. Donc il y a de la marge pour que le temps des païens soit fini. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que soit entré le plérôme des païens, ainsi tout Israël sera sauvé. Notez que là aussi, on ne va pas spéculer sur des nombres. On s'en fout, c'est quoi le plérôme des nations ? Alors dès que les théologiens commencent à dire « Oui, je pense qu'en enfer, il y aura 67,2% de la population. Peut-être 54,5% dans le meilleur des cas, mais dans le pire, quand même, 97,2%. » Alors, si vous voulez, ben, c'est pas sérieux. C'est pas le problème, c'est pas notre problème. Du coup, pour nous, il s'agit d'agir en tout afin que tous soient sauvés. C'est ça la règle de conduite de Paul. Et il le dit en 1 Corinthiens 10, 31, 33. Ça, c'est un magnifique passage. Si tous les chrétiens vivaient ça, le monde se porterait mieux. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. ni pour les Juifs et les Grecs incroyants. Ça veut dire, dans ce que tu dis, il faut que tu penses que la personne peut l'entendre. Hein, on pense au rite chinois. Mais non, c'est du démon, c'est lamentable, il ne faut pas faire ça. Le chinois ou le japonais qui fait ça pour honorer ses ancêtres, par piété filiale, et tu lui dis c'est n'importe quoi. Alors peut-être on peut trouver une manière quand même de lui dire non, c'est bien d'honorer ses ancêtres, mais il n'y en a qu'un seul qu'il faut adorer, c'est Dieu. On va t'expliquer comment. Mais pas prendre les choses en satanisant les pratiques des gens. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Alors on pourrait dire, Paul c'est un caméléon, il n'a pas de conviction, il se fait, je me fais tout à tous, juif avec les juifs, sans loi avec les sans lois, païen avec les païens. On pourrait dire, Paul c'est un caméléon, Paul caméléon franchement, pas vraiment, il a des convictions, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça veut dire que mes convictions, je vais essayer de les présenter de manière à être reçues. Voilà, j'ai vu récemment un de mes amis qui est le curé de Saint-Ferdinand des Ternes, le père Mathieu Rouget. Il vient d'écrire un petit livre, je suis à la moitié, tout à fait remarquable, un petit traité d'anti-défaitisme catholique, où il explique un peu comment avoir une attitude chrétienne positive dans le monde, dans la société française d'aujourd'hui. Voilà. En toute lucidité et en même temps en toute tranquillité. Ça fait du bien de lire ça, c'est magnifique. Donc à la fin de la vie de Paul, il y a une vision. Une vision qui renvoie à celle des prophètes, la vision d'un Dieu qui sera tout en tous, l'expression de Corinthiens, d'un Dieu au-delà des différences entre race, langue, peuple, nation, tribu, etc., d'un Dieu qui aime et veut le salut de tous, et qui pour cela choisit des moyens faibles. Dès que l'on veut se faire fort et que l'on s'appuie sur sa propre puissance, on ne met plus vraiment Dieu au premier plan. À l'époque de Paul, les Juifs sont une puissance politique, démographique, financière, impressionnante. Et ils sont fiers de cela. L'Empire de Rome aussi est fier, puissant, fier de son empire. Les Grecs, fiers de leur culture, la meilleure du monde, qui éduque le monde. Les chrétiens sont ce qu'il y a de plus petit et faible en ce monde, et ils ne sont pas nombreux, à commencer par celui qui s'appelle Paulos, le petit, l'avorton, l'apôtre d'une communauté de faibles et de fous. Alors, il faudrait nuancer parce que, voilà, Paul se fait cela, mais comme je vous l'ai dit, humainement, il n'est pas cela. Il vient du top 1%. Mais il vit avec les ouvriers qui travaillent de leurs mains au port. Voilà. Avec les chrétiens, comme avec Abraham d'abord, Dieu est parti du plus invraisemblable, du plus petit, un vieillard d'un côté, un tout petit peuple de l'autre, pour sauver un grand nombre. Ce secret, là c'est plutôt moi qui parle que Paul, parce que la référence n'est pas dans Paul, c'est Genèse 50-20, Joseph parlant à ses frères, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Pourquoi tout cela est arrivé? Voilà. Le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a transformé en bien pour la vie d'un peuple nombreux. Le Dieu de Paul passe par le plus petit pour atteindre au plus grand. Il passe par la croix, le châtiment des traîtres et des esclaves, pour restaurer la foi. Paul, il ne passera jamais directement à l'annonce de la résurrection. L'annonce du Christ passe toujours par la croix. Paul ne souligne l'universalité du péché et de la mort que pour souligner l'universalité du salut et de la vie. On peut le renverser, c'est ce qu'insiste beaucoup Jean-Noël Aletti, c'est à partir de l'universalité du salut qu'il a reçu, qu'il a perçu, que Paul peut voir que les hommes sont pécheurs pareils. Si c'est pas à la lumière du Christ, le juif dit « Mais moi j'ai quand même beaucoup d'avantages, j'ai de super moyens de salut, moi je peux faire des sacrifices au temple, à Dieu, tout ça c'est marqué là. » Bon, le grec il dit « Mais moi j'ai quand même les philosophes, j'ai ma culture, Rome elle dit « Moi j'ai mes légions, j'ai mon empire, j'ai ma piétas, j'ai le temple de Rome. » Bon, non, non. Si tous sont pécheurs, tous seront sauvés, si tous meurent, tous ressusciteront, si tous sont divisés, tous seront réunis, et si juifs et païens sont séparés, ils seront et ils sont déjà réunis dans un même corps. Comment? Eh bien, tout s'est concentré sur un seul homme, Jésus, et sur un seul moment de la vie de cet homme, sa mort et sa résurrection, qui sont inséparables. Voilà. C'est pour ça que Paul ne parle pas tellement de la vie de Jésus, parce que la vie de Jésus, pour lui, prend sens avec la croix et la résurrection. Bon, c'est ça qui donne le là. C'est parce que Dieu a ressuscité Jésus que Dieu est Dieu. Alors ça, le père Théobald, dans cette maison, vous savez, il dit « Dieu a changé de nom » avec le Nouveau Testament. Il est devenu « Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ... Et moi, j'aime bien citer le théologien américain Robert Jensen, protestant, qui dit « Le Dieu qui a ressuscité Israël de l'Égypte est le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. » Dieu, il a toujours un nom proactif. Israël n'a pas un Dieu abstrait et théorique. Dieu, c'est qui? C'est celui qui nous a tirés d'Égypte. Et pour les chrétiens, Dieu, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Bon, quelqu'un qui est en train de se noyer au bord d'une rivière. D'un coup, il y a un mec en costume de Superman qui se jette à l'eau, qui le sauve, qui l'amène sur la rivière, puis qui va chercher du secours. Puis les pompiers arrivent, il dit au gars, « Mais qui vous a tiré de la rivière ?»« Ah, mais un mec en costume de Superman. » Vous rigolez, vous me racontez des carabistouilles. « Si, si, si. Moi, j'étais au milieu de la rivière, maintenant, il m'a sauvé. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, qu'il n'y a pas de Superman, que ça n'existe pas, que, etc. Moi, je sais que j'étais dans la rivière et qu'il m'a sauvé. Démerdez-vous. » Voilà. Donc, ça commence par le fait de l'action. Et ça, c'est ce que Paul dit très bien en Romains 4. Espérant contre toute espérance, Abraham est celui qui a cru, fondant le peuple des croyants. Donc le Dieu de Paul est un Dieu de salut au cœur du mal, un Dieu qui s'est identifié au mal pour mieux le vaincre, un Dieu qui est celui de tous parce qu'il est radicalement le Dieu d'un seul, le Dieu de Jésus. Jésus est ainsi à lui seul, prémisse de tous les vivants, mais en lui, c'est tous qui sont sauvés. Et ça, Paul le dit, Romains 6, 4, 5. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Le point qui intéresse Paul, c'est le Christ en tant que prototype, en tant que premier-né. Une fois de plus, si la résurrection c'est que celle du Christ, ça n'a strictement aucun intérêt. D'où le discours aux Corinthiens. Si on ne peut pas croire à la résurrection des morts, ben on va se rhabiller. Il n'y a plus d'intérêt à l'ensemble du truc. Pour conclure, Paul, qui se voulait le plus petit, le moindre des apôtres, est devenu, pour tous les chrétiens, l'apôtre par excellence. Paradoxe. Celui qui a annoncé par de puissants paradoxes le salut du Christ, qui de riche s'est fait pauvre, que Dieu a identifié au péché pour nous sauver du péché, etc. Ce Messie paradoxal, Paul l'a imité dans sa vie. Il ne s'est pas contenté de l'annoncer. Volontairement, il a abandonné tout ce qui lui était le plus cher et qui avait fait sa vie jusque-là pour se faire le plus petit. Il a même voulu vivre ce qu'il enseignait en renonçant à exiger toute rétribution. Lui, le pharisien, juif, fier de son appartenance à la tribu de Benjamin, à son peuple, à son exigence religieuse, s'est fait comme un païen au milieu des païens. Il a accepté d'être fouetté, battu, lapidé, mis en prison comme un esclave. Si le Christ est mort pour tous, lui, il a voulu se faire tout à tous. Le cœur de sa théologie correspond au cœur de sa vie, qui ne font plus qu'un. Jésus disait souvent « Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé ». Proverbe que Jésus puise dans les Écritures, à commencer par le cantique de Anne, la mère du premier Messie, Anne, mère de Samuel, qui est la première personne dans la Bible, vous savez ça, à parler du Messie. Paul a vécu cela à fond. Jeté à terre sur le chemin de Damas, il s'est ensuite abaissé en acceptant les épreuves, portant sur son corps blessé, son statut de disciple, les marques de Jésus. Donc au cœur de sa vie, il y a l'expérience de la croix, le paradoxe de l'amour, du pardon de Dieu, au lieu de la souffrance et de l'impuissance la plus extrême. Paul a voulu vivre la croix comme son maître. Dans sa vie, il avait vu et il a cru qu'il avait tout reçu gratuitement de Dieu. Qu'ai-je fait pour recevoir cette révélation de Damas? Réponse, rien. Et qu'il devait donc donner gratuitement. Lui qui savait avoir tout reçu du Christ lui-même, a voulu aussi ne rien faire sans l'accord de Pierre et des douze, ou plutôt a voulu ne pas continuer à agir sans la main droite de Pierre et des douze. Galates 2. Il est non seulement allé à Jérusalem peu après sa conversion, 3 ans après, Galates 1, mais il a patiemment, pendant des années, organisé une collecte pour exprimer la communion de toutes les églises et de tous les chrétiens entre eux. Cela lui a demandé une grande humilité, qui n'était peut-être pas sa première vertu naturelle. « J'ai travaillé plus que tout le monde », etc. Lui qui avait reçu de tels dons charismatiques et spirituels, il a voulu exercer d'abord le charisme de l'enseignement. Oui, parler en langue, le don des miracles, tout ça, je l'ai. Mais ce qui compte, c'est d'abord mes souffrances et mon enseignement. Il a mis toutes ses ressources intellectuelles, toute sa raison, au service de la foi, dans le Messie, de façon imaginative et créatrice. Ça, c'est le paradoxe sur lequel j'ai peut-être pas trop insisté, mais qui est très intéressant. Ce ne sont pas les moyens humains de conviction qui vont faire que les gens vont se convertir. Mais pour autant, l'apôtre doit utiliser tous les moyens à sa disposition. Bon, c'est comme qui dirait, mais j'ai envie de faire un site sur Jésus sur Internet. Mais bon, mais c'est pas sur Internet que tu vas convertir les gens. Eh ben, j'en sais rien, je vais faire un site intelligent, il y a peut-être des gens qui vont rencontrer Jésus avec ça. Et je vais le faire le plus smart, le plus génial, le plus cool, le plus truc possible. Et en même temps, je m'en fous, c'est le moyen, c'est pas ça qui est important. Si Dieu veut se servir de ce moyen, il se servira de ce moyen. Par contre, moi, j'ai pas le droit de dire, je n'utiliserai pas toutes mes ressources. Donc, Paul demeure ainsi. Et c'est très précieux, et Joseph Ratzinger dirait dans Jésus 2, l'Esprit Saint a voulu que nous ayons ce 13e apôtre, il demeure à jamais le modèle du disciple qui n'a pas voulu se faire plus grand que son maître, et que pour cela, son maître a élevé très très haut. J'ai fini, donc je suis prêt à prendre vos questions si vous en avez. Si vous... Je dois avoir votre mail quelque part, non? Je vous enverrai la conclusion, comme ça, vous évitera de transpirer trop. Oui, question. La bataille fait rage. Bon, on ne peut parler qu'en termes de probabilité. Évidemment, vous allez me dire, il y a les fameuses sections en nous. Les Wiebericht, uns, hein, nous avons pris le bateau pour Troas. Donc, si Luc, mentionné au début de l'évangile, est bien inclus dans le nous, comme ça semble le cas des actes, ben forcément il est un compagnon de Paul, sans doute de la deuxième génération. Si on fait ce choix, donc mettons que Luc a 25 ans en 55, ça fait qu'il est né en 30. Donc, en 95, il a 65 ans. Pas de problème. Aucun problème. Dans ce cas-là, c'est un chrétien de la deuxième génération, comme Tite, Timothée et les autres. Maintenant, ça a été défendu par beaucoup de monde, ça. Il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas spécialiste de ça, c'est Odile Frichimé. Il semblerait que la technique des rapports en nous pour crédibiliser un certain nombre de récits soit une technique littéraire de l'époque, c'est-à-dire que le « nous » non seulement ne veut pas dire que l'auteur veut nous faire croire qu'il était dans le bateau, mais que c'est une manière de mettre du vivant, du pittoresque, de l'efficacité littéraire dans le récit. Dans ce cas-là, le « nous » ne prouverait pas que Luc était dans le bateau, si je puis dire. Alors, ça pourrait être d'ailleurs, pour autant, quand même, quelqu'un qui a connu Paul personnellement. Alors, l'autre hypothèse, c'est plutôt de dire... Si on date... Alors moi, j'ai changé d'avis depuis 10 ans. J'enseignais plutôt avant ce que vous aviez dans les manuels il y a 15 ans, c'est-à-dire Luc vers 80-85, ce que vous trouvez encore dans l'introduction de Brown, etc. Moi, maintenant, j'aurais plutôt tendance, avec un bon paquet d'autres, je ne suis pas spécialiste de ça, juste pour vous dire que je penche plutôt vers là, plutôt. On situe Luc et Jean à peu près au même moment, plutôt vers 90-95, même carrément 95. Bon, pour un ensemble de raisons sociologiques, de ce qui est dit sur le doute sur la résurrection, que le Christ doit manger après la résurrection, que le rapport à Rome, que, et aux Samaritains, ça. Il y a plein de petites choses. Donc, le protognosticisme qu'on peut déjà lutter contre dans Luc et Jean. Mais enfin, 95, voilà, alors Paul, il peut avoir 40 ans, dans ce cas-là, s'il est né en 55, évidemment... Il n'a pas pu connaître Paul. Par contre, il a pu connaître Tite et Timothée et avoir des rapports de première main, comme il dit au début, sur Paul. Alors, que vous dire? Je pense qu'aujourd'hui, au niveau des exégètes, c'est assez partagé. C'est assez partagé parce que les arguments, pour le moment, de ce que je les vois, sont assez partagés. D'un point de vue, pour nous, spirituel, ça n'a absolument qu'une espèce d'importance. Luc s'est bien informé, inspiré par l'Esprit-Saint. Il montre quand même, alors c'est redoublé de la question, s'il n'a pas connu Luc, a-t-il connu ses lettres? Ça nous paraît évident, mais ce n'est pas si simple, dans la mesure où il n'y a quasiment aucune allusion directe aux lettres dans les actes. Alors, il y a l'épisode du panier, quand il sort par le panier de Damas, qui est raconté dans le même nombre de phrases et avec quasiment la même structure, mais en changeant des mots. C'est un panier, puis c'est une corbeille. C'est persécuté par le roi Arétas, c'est persécuté par les Juifs. Vous me direz, c'est la même chose, les Juifs font pression sur le roi Arétas. C'est pas tout à fait le même récit, mais c'est une petite variation. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que Luc connaît les lettres de Paul. Voilà, ça, pour sûr. Qu'il ne faut pas que sa théologie est fidèle à Paul, même s'il l'exprime narrativement autrement. Après, sur la question de est-ce qu'il l'a connu personnellement ou pas, 50-50, hein, je ne sais pas trop. Ce n'est pas décisif. En tout cas, on peut plaider des arguments dans un sens ou dans un autre. La chose importante, je trouve pour nous, canoniquement, théologiquement, c'est la concordance théologique de Luc avec Paul. Alors si on dit que Luc est proto-catholique et Paul est proto-protestant, pour charrier et pour faire des formules à l'emporte-pièce, bah, ça montre que c'est pas si différent. Voilà. Alors Luc est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus proto-catholique peut-être. Mais Daniel Marguerat, le grand exégète protestant de Lausanne, a contribué à faire sauter un peu ça. Hein. Moi, quand je lis le commentaire sur les actes de Marguerat, je suis d'accord avec 99,99. Hein. Je pense qu'un catholique, un exégète catholique est d'accord avec 99,99% de la théologie que Marguerat fait des 12 premiers chapitres des actes. On va voir, acte 13-28 va sortir dans 3 mois. Peut-être qu'il dit des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord dans le deuxième volume. Enfin, dans le premier volume, moi, ça me va. Le péché originel dans l'Église avec Ananie et Saphire, sur la Pentecôte, tout ça, c'est remarquable. Et ça touche sur cette question, puisque longtemps la question, c'était Paul un peu comme canon dans le canon chez les luthériens, donc un peu surdéterminant l'ensemble. Et on lisait Actes à partir de Paul. Alors, il ne faut pas lire non plus à partir d'Actes. Il faut tenir l'équilibre. Mais en tout cas, là où tout le monde est d'accord, c'est que l'Esprit-Saint a voulu qu'on ait et Paul et Luc. Ça, c'est sûr. Il faut, à mon avis, plutôt tenir que Luc ne cherche pas à modifier, à contredire ou à changer Paul. Il cherche à le présenter le plus justement possible pour une autre génération. Voilà. Il cherche à présenter les grands thèmes de Paul autrement pour une autre génération. Oh, des petites disputes comme ça arrive apparemment. Si Luc nous en parle, comme c'est plutôt pas à l'honneur des trois, c'est sans doute vrai. C'est sans doute vrai aussi qu'entre Paul et Barnabé... Alors voilà, typique, discussion historique. Hypothèse A, vous dites, Paul et Barnabé se sont séparés sur un vrai contentieux théologique. À partir de Galates 2 et de l'incident d'Antioche, même Barnabé a suivi Képhas et n'a pas fait ce qu'il fallait, dit Paul, on peut déduire qu'il y a eu un vrai conflit, si vous voulez, théologique sur justement ce que les païens devaient faire. Et Luc, il s'est dit, bon, oui, il y a eu ça, mais enfin, in fine, voilà, aujourd'hui on est réconciliés, on applique la théologie. De ce sur quoi on s'est mis d'accord, en gros, au troisième accord, mettons. Donc, maintenant, je ne peux pas nier qu'il y a eu un conflit entre Paul et Barnabé, ben, je vais plutôt insister que c'est un conflit de personnes et que l'affaire s'est jouée sur la présence de Jean-Marc dans l'équipe à Chypre. Bon, alors, il y a des gens qui reprochent ça à Luc, moi, je ne lui jette pas la pierre. Voilà. Je trouve que Luc, c'est comme sur Acte 15, il a plutôt voulu mettre en valeur... Son histoire est en partie théologique, elle est en partie catéchétique, elle est en partie pédagogique. Bon, mais après tout, de dire aux chrétiens, quand il y a des problèmes... Il faut se réunir pour en parler, c'est quand même pas un crime. Après, vous dites, oui, mais en fait, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu 4 réunions, 3 disputes, puis il y a eu des facteurs personnels. Il va dire, ok. Moi, je pense que quand on lit les actes, on voit qu'il y a eu des problèmes graves entre chrétiens. Parce qu'au moment de l'affaire de Corneille, quand même, Pierre, il se heurte à une sacrée opposition. Quand Paul arrive à Jérusalem, Jacques et tout, on voit bien qu'il y a de l'opposition. Donc, Luc, il nie pas les oppositions. Maintenant, il dit, ok, il y a eu des oppositions. Maintenant, on s'est quand même mis d'accord. Et on est tous maintenant dans la même église. Bon, il a quand même raison, même historiquement, puisque le canon montre que voilà, sa vision, pétrinien, paulinien et jacobite se sont grosso modo accordés. Avec, on peut imaginer, les extrémistes de chaque parti qui ont toujours refusé. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. Autre question. L'âge de la sœur de Paul, je ne sais pas. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais Alors, je ne sais pas si c'est à propos des diaconesses. En tout cas, il y a des différences apparemment entre Orient et Occident. Et que les diaconesses auraient survécu plus longuement en Orient. Alors pourquoi là je sors complètement de mon domaine de compétence, je n'en sais rien. De même d'ailleurs ce qu'elles faisaient effectivement. On peut dire quand même, objectivement, un des traits de la Catholica, comme on dit à partir du IIIe siècle, de la grande Église, et qu'elle fait une place quand même minime aux femmes dans le ministère public, à la différence des églises montanistes, des églises du mouvement phrygien, prophétique, qui correspondrait à certaines de nos églises charismatiques aujourd'hui, dans lesquelles les femmes avaient un rôle très important. Voilà ce qu'on peut dire. Et que du coup, les évêques catholiques, se durcissant face à l'opposition des hérétiques, vont dire, voyez ce que ça donne quand il y a des... Mais les femmes, ce n'est pas le point majeur. Et bien sûr, ça va être très critiqué par les évêques catholiques. Ça montre bien que c'est n'importe quoi, puisqu'ils ont des femmes évêques. Mais le point majeur du contentieux porte d'abord sur des questions théologiques autres, quand même. Mais c'est vrai que ça va durcir les choses. En tout cas, on peut dire, le mouvement chrétien de Paul fait une large part aux femmes, et sans doute c'était le mouvement qui faisait la plus grande part aux femmes. Et l'image anti-féministe de Paul est complètement due aux tritos pauliniennes et au fait que, Paul, des extraits du deuxième ou troisième Paul ont été utilisés pour... le fait qu'à tous les mariages catholiques, on lise Éphésiens 5 jusqu'au Concile, fait que tout le monde prenait Éphésiens 5 comme ce que dit Paul, puisqu'on lisait lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. C'est ce qu'on dit. Donc, du coup, ça a quand même beaucoup marqué les esprits. D'où tout l'effort de la théologie féministe, Schussler, Fiorenza, etc., depuis 40 ans, pour enlever ça, et pour arriver à un Paul, comme pour Jésus d'ailleurs, un Paul qui est beaucoup plus féministe, comme Jésus d'ailleurs aussi de son temps, ce qui participe de la défense des petits. C'est comme Jésus et les enfants. C'est un des points, pourquoi Jésus s'intéresse aux enfants? Parce que personne ne s'intéresse aux enfants. Les enfants, c'est une non-entité, c'est des petits, c'est pas intéressant. Et les femmes, analogiquement, vous comprenez ce que je veux dire, c'est pareil. Donc c'est comme sa position sur le divorce, c'est une position féministe, en fait, de Jésus. C'est une position de défense du faible, c'est-à-dire défense de la femme. Alors après, chez les gréco-latins, où la femme est beaucoup plus libre et a une capacité de divorce, on va adapter les évangiles pour dire Dieu a dit aussi à la femme de ne pas divorcer. Bon. Mais au départ, Jésus s'adresse aux hommes de Galilée. Donc c'est une position qui est enracinée dans sa défense des femmes de Galilée. Et ça, c'est très clair dans le bouquin de Mayer, et je trouve que ça aide à comprendre une des origines de la position de Jésus. Autre question, profitez-en. Hein.
Oui. Après Paul,
oui.
Après Paul, quelle était l'importance?
Alors, là, il faut lire Marie-Françoise Basselès, des gens comme ça. Le débat Marie-Françoise Basselès-Paul Veyne est un des plus passionnants débats intellectuels de qualité des dernières années en France. Les deux livres sur comment notre monde est devenu chrétien. En fait, à la fin du 1er siècle, les chrétiens sont une poussière, quelques milliers. Et on pense qu'au moment où Constantin, en 313, prend l'édit de Milan, il y a au maximum 5% de chrétiens dans l'Empire, dit-on. Alors, peut-être entre 5 et 10, en tout cas une minorité nette. Du coup, ça augmente. Alors peut-être qu'on... Voilà, on peut discuter là-dessus. Je reste que la question, pourquoi autant d'officiers supérieurs de l'armée et de membres de l'état-major de Constantin étaient chrétiens devient une question intéressante. Bon. Et donc l'époque des pères de l'Église, vraiment, des pères de l'Église prénicéens, c'est vraiment donc de Justin de 150 à 325, ceux qui sont en contexte de persécution et de christianisme persécuté. Ensuite, l'un des drames du christianisme, c'est quand même que, j'allais dire, le statut idéal pour la foi chrétienne n'a duré que 65 ans. Même moins. 315, 380. Oui, c'est ça, 55 ans. C'est-à-dire un statut de liberté religieuse. On va dire comme, en gros à peu près comme aujourd'hui en France. Quand Théodose a fait du christianisme une religion d'État à partir de 380, qu'on a pu incendier les synagogues sans problème, couper la tête aux hérétiques sans problème avec l'appui des troupes impériales, les choses ont quand même un peu dégénéré. Et ça, c'est l'État qui va durer de 380 jusqu'au 18e ou 19e, enfin selon les régions. Et donc les théologiens à partir de l'époque nicéenne ont un autre rapport à l'Empire, un autre rapport aux politiques. Il y a un vrai écart entre un Origène et un Jérôme, enfin entre quelqu'un qui meurt en 253 et quelqu'un qui va mourir en 440, comme Augustin aussi. Oui ? Waouh, à celle-là, je ne la connaissais pas. critique. Parfois, dans ses lettres destinées à des communautés qu'il a fondées, mais on peut le comprendre aujourd'hui, il est assez elliptique. Et du coup, je vais reprendre la critique que fait la deuxième lettre de Pierre. Il y a dans les lettres de notre frère Paul des passages relativement difficiles à comprendre, qui font que les hérétiques les tordent pour en tirer d'atroces hérésies. Bon. Donc, on voit déjà donc qu'en 115, il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi de Paul. Alors, heureusement qu'il y a eu Romain. Normalement, Romain devrait permettre sur beaucoup de points d'éclairer les ambiguïtés de Corinthiens ou de Galates. Donc, voilà. Parfois, un tempérament peut-être un peu trop emporté. Quoique, il nous est difficile aujourd'hui de distinguer entre une colère rhétorique et une vraie colère, parce que les colères rhétoriques, comme tous les textes sont extrêmement écrits, c'est des colères construites. Mais c'est vrai que bon, il y a 2-3 versets un petit peu forts. Il y a des passages plus faibles, notamment justement 1 Corinthiens 11, mais qui sont sur les cheveux des femmes, hein, mais qui sont d'autant plus révélateurs à cause de cela aussi, qui du coup nous permettent de dire bon, voilà aussi l'humanité de Paul et voilà les critères qui varient historiquement. Alors dans quelle mesure ils varient, il faut voir. Non, mais ça, c'est pour rassurer les femmes qui ont les cheveux courts. C'est quand même pas un crime capital. Alors, évidemment, pour Paul, c'est très très grave dans 1 Corinthiens 11. Mais bon, il faut se mettre dans le contexte, c'est-à-dire, en gros, comme je vous ai dit, il faut que la femme puisse rester une femme, voilà, distincte des hommes. Maintenant, ces choses-là peuvent changer au niveau de, voilà, au niveau des détails. Là, il s'obstine sur les cheveux. Bon, quand même, quand il écrit le verset « Il faut que les femmes gardent un voile en signe d'exousia, de puissance à cause des anges », il n'y a pas grand monde qui comprend. Il y a des fleuves d'encre là-dessus, et quand même, personne, enfin, tout le monde se bat, il y a des dizaines de bouquins, et voilà, ça, ce verset, s'il aurait pu ne pas l'écrire, ce serait pas mal. Voilà. La femme doit discipliner ses cheveux à cause des anges, hein, 1 Corinthiens 11, 10. Là, effectivement, on est un peu... voilà. Aussi bien dans le Seigneur, la femme n'est pas autre que l'homme, l'homme n'est pas autre que la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, ce qu'il avait dit avant, ainsi l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Bon. Puis à la fin du reste, si quelqu'un se plaît à discuter, ce n'est pas notre usage ni celui des églises de Dieu. Donc un pur argument d'autorité qui est quand même théologiquement un peu faible. Bon, voilà. Donc il y a des passages quand même un peu plus faibles, trop elliptiques. Maintenant, avec Aléthi, mon maître, je pense qu'effectivement, le fait qu'il ait employé des paradoxes quand il arrive au cœur de la foi, parce que Paul, on peut dire, c'est très rationnel. C'est d'ailleurs ce qui nous pompe la tête le dimanche, parce que les gens se cassent, c'est compliqué, on a du mal à suivre, c'est un raisonnement, etc. En même temps, quand il arrive aux limites de la raison, il en marque la faille par l'usage du paradoxe. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'au moment même où il déploie toutes ses ressources de raison, il dit, bon, ben voilà, le Christ de riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Ben, jamais personne a enrichi quelqu'un avec la pauvreté. Ça marche pas. Ou le Christ est devenu malédiction pour que nous soyons bénédiction, pour nous donner la bénédiction de Dieu. En quel rapport? Bon, rationnellement. Vous voyez? Donc ça, c'est une manière pour dire la croix, ça se heurte à notre raison. Quelque part. Donc je vais faire tout ce que je peux pour comprendre. Les théologiens font des bouquins pour essayer de comprendre. Maintenant, le mystère, quelque part, échappe. Alors, par moments, disons que Paul, voilà. Mais j'en veux parfois plus au découpage liturgique qui nous présente un Paul, comme je vous ai dit en entrée, gauchy, un Paul où tout l'aspect simple, affectif, cordial, chaleureux, simple, je vous aime tous, je prie pour vous, je fais mention de mon vie, enfin, un Paul normal, quoi. On l'entend pas assez, du coup, on dit, oulala, il a des théories compliquées, c'est elliptique, qu'est-ce qu'il veut dire, bon. Mais on le trahit un peu, alors voilà. Donc, avec l'auteur anonyme de la deuxième de Pierre, je peux dire, si Paul avait été un peu plus clair 3-4 fois, ça aurait quand même rendu service au théologien. Maintenant, voilà. En tout cas, moi, je ne lui reprocherai pas d'avoir été un solitaire, quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de la communion des églises, puisque je pense au contraire, et Luc a raison de le rappeler, il est mort pour la communion des églises. Si jamais il y avait des défaillances chez Paul, elles ont été compensées par l'Esprit-Saint. Par exemple, ce que je vous ai dit sur les paroles de Jésus. Il est vrai qu'il y a tellement peu de choses sur l'homme Jésus que si nous n'avions pas les évangiles, nous saurions quand même sur l'homme Jésus tellement peu de choses que notre foi manquerait un peu d'appui humain. Vous voyez ? Au sens positif. Paul est tellement exigeant sur le Jésus selon la chair, katasarka, ça compte pas ça. Oui, ça compte pas. Enfin, Je ne dis pas qu'on aimerait savoir s'il a les yeux marrons, les yeux bleus, s'il prenait du chocolat ou du café au petit déjeuner. C'est pas ça la question. Enfin, quand même, de savoir un peu la vie de Jésus en Galilée, comment il allait avec la belle-mère de Simon, était au bord du lac, comment il a appelé les 12, tout ça, ça nous intéresse quand même un peu. C'est un appui humain, notre foi. En tout cas, l'Esprit-Saint a jugé que c'était bon qu'on ait les évangiles, c'est-à-dire qu'on n'ait pas Paul tout seul. Voilà. Donc ça, c'est... Si jamais il y avait eu un manque de Paul de ce côté-là, ce que je pense, il a été compensé par l'Esprit-Saint et par les évangiles. Correct. Alors déjà, ça c'est une manière de décrire pour nous de loin. Qu'il y ait eu différents groupes avec des inspirateurs un peu différents, tous les historiens sont à peu près d'accord. Alors, il faut distinguer. Des groupes ont poursuivi leur trajectoire et chaque groupe a eu ses extrémistes. C'est-à-dire qu'il y a eu les ultra-jacobites qui ont existé au moins jusqu'au 5e, 6e siècle. Qu'à partir peut-être d'origine, on va appeler les judéo-chrétiens, mais au sens les judaïsants, enfin des gens qui, voilà. Il y a eu des ultra-pauliniens qui vont être récupérés par les montanistes, ceux des actes de Paul et de Thécla, etc. Enfin, des textes de trajectoire paulinienne, mais disant des choses qu'on ne dit pas dans la grande église. Et puis, à partir du moment où se met en place l'épiscopat collégial par zone, enfin monarchique dans la ville, et collégial par région, Ignace d'Antioche, 115, 120, bon, là, il y a une communion, sachant que le rôle de primat de l'évêque de Rome va arriver petit à petit. Comme vous savez, c'est Ignace d'Antioche qui dit l'église de Rome qui préside à la charité. Bon, après, il y a Antioche, il y a Jérusalem, il y a les villes d'Asie mineure. Bon. Donc là, petit à petit, je pense que les extrêmes de chaque groupe vont partir dans leur trajectoire propre, mais voilà, tandis que les autres vont finalement être ensemble. Et le fait qu'il y ait justement dans le canon ensemble, ben, ça va faire... On est tous un peu... Paulinien, tous un peu johannique, tous un peu pétrinien, puisqu'on a l'évangile de Jean, on a les lettres de Paul, on a l'évangile de Marc, etc. Donc, in fine, la grande église, ça va disparaître assez vite, ça. Mais je veux en même temps dire qu'il y a des trajectoires de groupes particuliers qui continuent. En d'autres termes, il y a toujours eu des divisions dans l'église. Il y a toujours eu des hérétiques et des orthodoxes, entre guillemets. Bon. Et souvent, les hérétiques, c'est des gens qui n'ont pas compris le dernier train de l'orthodoxie. Bon, ça, c'est Alain Le Bouluec qui l'a très bien montré. L'hérétique est en général quelqu'un qui dit « Mais de mon temps, ne faisait pas comme ça. Pourquoi maintenant vous dites ça ?» Puis alors l'orthodoxe dit « Oui, mais il y a eu un concile, maintenant on dit comme ça. » Et l'hérétique, c'est lui qui dit « Non, mais chez moi, à Pâques, on a toujours fait là, à telle date. Enfin, vous me changez la religion. » Et c'est un petit peu ce qu'on voit avec les lefévristes, dit en passant. Donc les lefévristes deviennent hérétiques, finalement de schismatiques basculent dans l'hérésie, parce qu'il dit « Mais on a toujours fait comme ça. » Donc au bout d'un moment, ils s'éloignent de la grande église. Ça, c'était déjà le cas à l'époque. On est rarement hérétique par volonté de nouveauté, mais plutôt par conservatisme, entre guillemets. Ça, c'est Alain Le Bouluec qui a très bien montré ça dans ses travaux sur hérésie et orthodoxie. Bon, eh bien, ma foi, bonne fête de Pâques.